Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC. RMC, 18h20, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC. Bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme pour ce jeudi soir. Et oui, on est à un jour, et après c'est le week-end, un jour du week-end. On va encore s'éclater, on va passer une bonne émission. Il y a de l'actu. On va revenir un petit peu sur ce qu'on a pu dire hier, parce que ça a fait réagir le président Jean-Michel Aulas, entre autres. On va en parler, comme tous les jours, avec deux monstres des consultants, mais surtout le monstre des journalistes. Il est là, c'est Jean-Louis Tour. Salut Jean-Louis.
Salut Jérôme, salut tout le monde. Ouais, très bien.
T'as passé une bonne journée?
Bon, ouais, ça va.
Ouais, tu t'es refait les matchs de Cherki hier.
J'avais
suite
peur
à
de...
nos débats.
Non, mais je suis content d'être toujours à mon poste. J'avais peur de me faire virer.
Pourquoi?
Après l'émission d'hier.
Bah, parce qu'on est en désaccord.
Ouais.
Bah bon.
T'as eu... Alors, on sait jamais. Hein.
Bah écoute,
jamais.
Déjà, je suis pas là. Je suis pas le seul responsable de savoir si tu dois être viré ou pas.
Et puis, je me suis inquiété pour ta santé mentale.
Voilà. J'ai eu peur quand j'ai eu mon boss Karim Nedjari qui m'a appelé. J'ai dit putain, peut-être qu'il a laissé Jean-Louis à la maison.
Ouais, ça aurait pu être le contraire.
Mais
aussi,
bon,
c'est toi qui aurais pu rester à la maison. Ce que t'as dit sur Cherki hier.
Oui, mais sauf que l'émission, comment on l'a rappelé alors? À la maison.
On l'a rappelé, Roten raconte n'importe
Allez,
quoi.
Allez, bon, ça va. Bon, on en a un qui raconte jamais n'importe quoi. C'est notre champion du monde, il est là, c'est Manu Petit. Salut,
bonsoir,
Manu.
Bonsoir, monsieur, bonsoir tout le monde.
Salut, Manu.
Ça va?
T'aimes bien Cherki, toi?
Comment ça, le joueur?
Oui,
oui, oui, j'aime bien, oui.
Bon, merci.
Pourquoi?
Non, mais comme ça,
on a discuté pendant une heure.
Il est déjà énervé avant même de faire les thèmes.
Mais pas du tout. On a déjà parlé un peu hier, c'est pour ça. Vous pouvez écouter le podcast d'ailleurs.
Ah, hein, il s'est énervé hier.
Ouais.
Il y en a un qui était totalement en désaccord avec moi, on l'entend, il rumine, c'est Jean-Michel Larquet. Salut Jean-Mi.
Oh, je rumine pas, tu me demandes ici. Si l'hôpital psychiatrique que t'as appelé, c'est.
Mais pourquoi? Mais je comprends. L'hôpital psychiatrique, carrément.
Mais Cherki était très content. Il a eu sa demi-heure de gloire hier. Il n'a attendu pas tant de ta part. C'était formidable.
Bon, on en reparlera.
On en reparlera.
Il est arrivé en Ferrari à l'entraînement tout à l'heure.
Et je crois qu'effectivement. Le cochon est dans le maïs.
Allez, ça va.
Le cochon est dans le maïs, c'est l'expression, effectivement.
Bon, Jean-Louis,
ce soir, messieurs, Roten sans flamme sur le mercato. Jean-Michel Aulas joue-t-il sa crédibilité sur le dossier Cherki, notamment puisqu'il s'est engagé à dire que le joueur formé au club resterait cet hiver. Même chose sur Malo Gusto, notamment. 32-16 pour débattre, ce sera à 19h tout à l'heure. À 18h30, Luis Campos sera l'accusé du soir. Le conseiller de Nasser Al-Khelaifi sera accusé d'avoir perdu de sa magie, de sa réussite sur le mercato depuis qu'il est arrivé à Paris. Il sera attaqué et défendu comme tous les soirs, 18h30. Tout de suite, messieurs, peut-on dire non à Marseille ?
Marseille, je le rappelle, préambule, veut absolument Terem Moffi, deuxième meilleur buteur de Ligue 1.
Moffi ! Et le troisième but pour le FC Lorient !
Et décide plus tard finalement de dire non.
C'est honteux.
Guendouzi, la lucarne.
Comprenez-vous les choix de Terem Moffi de préférer Nice à Marseille?
Je croyais avoir tout vu. Eh bien, j'ai pas tout vu encore. On est vraiment...
Alors, on n'a pas pu en parler hier à cause de cette folle histoire Cherki. Place donc ce soir au dossier Moffi. Donc, je vous rappelle les infos depuis 24 heures. Pablo Longoria a tout donné pour convaincre l'attaquant de Lorient de venir à l'OM, sauf que le joueur a refusé. Selon nos confrères de l'équipe, il veut aller à Nice, qui travaille sur le dossier depuis longtemps. Problème, l'offre niçoise n'est pas suffisante pour Loïc Ferry, le président de Lorient. Donc, statu quo aujourd'hui, mais c'est quand même l'occasion de débattre sur la volonté du joueur. Comprenez-vous qu'un joueur préfère Nice à Marseille? 32-16, Jérôme.
Ah, pour parler de ce débat-là, cette réponse là, non, j'ai du mal à le comprendre, même si c'est perso, hein, les choix nous regardent tous quand t'es joueur de foot, et ça fait parler parce que tu peux pas satisfaire tout le monde. Dans tous les cas, il assume Terem Moffi, il a assumé jusqu'au bout, il l'a dit, il préfère Nice pour ses raisons. Elles sont personnelles peut-être, elles sont sportives peut-être, mais moi j'ai du mal à comprendre ce choix là parce que quand je regarde la France, je regarde la Ligue 1, je regarde ses clubs, je me dis il y a quand même des clubs qui donnent envie quand t'es un joueur de foot professionnel, quand t'es un jeune joueur de foot, il est encore jeune, Moffi, que tu joues à Lorient, avec tout le respect que j'ai pour Lorient par rapport à tout ce qu'ils font cette année, bravo. bravo, sportivement, il est dans un bon club qui lui a permis d'arriver à un niveau qu'il n'avait jamais atteint, qui lui a permis d'atteindre une valeur marchande qui est élevée en l'espace de 6 mois. Donc un vrai casse-tête pour le président Ferry, ça c'est sûr. Savoir je le lâche pas. Après, quand tu t'appelles Mofi, il faut m'expliquer pourquoi Marseille ne te fait pas rêver plus que Nice. Déjà, rien qu'en regardant, je vais même pas regarder le passé des deux clubs, parce que là, il n'y a pas photo, mais je vais juste regarder le présent. Le présent, il y a un projet à Nice qui était en ballant il y a quelques années, qui a du mal à se mettre en place. Moi, je redis ce que j'ai dit il y a quelques semaines. En effet, j'ai été rassuré, et c'est pour ça que je donnais cette info-là, que ce projet niçois va exploser au mois de juin. Donc ça, ça a peut-être joué dans la décision de Terrain Mofi. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, sportivement, c'est quand même un peu plus intéressant d'aller à l'OM qui joue une place en Ligue des Champions, qui joue même le titre, on va aller jusqu'à là, dans un stade où il y a un engouement cette année. Mmh. Alors ça change vite à Marseille, parce que quand il y a la population qui est derrière, comme ça, on sait que ça peut vite se retourner, 2-3 mauvais résultats, ça se retourne. Mais quand tu es un joueur de foot, qui est plus que tu joues à Lorient, que tu as la chance d'arriver dans un club qui a des ambitions élevées, bah écoute, moi je me dis, je ne comprends pas son choix sportivement.
Est-ce que Manu, toi tu le comprends sportivement ?
Je suis globalement d'accord avec ce que vient de dire Joe, mais quelque part je peux comprendre la position de Mofi justement parce que bon, il avait déjà donné un accord préalable à ce club, à l'OGC Nice depuis belle lurette, mais même si un accord, on sait qu'on peut y revenir dessus à tout moment. C'est certainement une question d'argent. La raison pour laquelle le président de Lorient à l'heure actuelle est en train de bloquer. Est-ce que justement il n'y a pas un ricochet avec Bamba aujourd'hui sur le fait qu'ils avaient promis que Bamba aille là-bas aussi?
Non, donc... mais Bamba intéresse Lorient.
Oui,
mais pour ça. Bamba Dieng.
Oui,
mais pas au prix que Marseille veut le vendre.
Oui, mais quelque part, je me dis que s'il va à Nice, il a la garantie non seulement de jouer tous les matchs, ce qui n'est certainement pas une certitude à l'Olympique de Marseille, parce que vu le système avec lequel joue Tudor, c'est une pointe avec Alexis Sanchez.
Ouais.
Moi, je suis persuadé que dans son évolution, puisqu'il a 23 ans, ça serait peut-être un coup d'arrêt, parce que imagine s'il joue un match tous les 4 matchs et qu'il joue pas bien d'entrée et qu'il sur le banc pendant X semaines, ça peut très vite partir en sucette pour lui.
Mais tu penses ça quand tu vois les moyens limités, très limités de l'OM de faire un effort en le prenant, en mettant autant d'argent, c'est-à-dire quasiment 30 millions.
Non, bon, mais si je sais, Jérôme, mais mets-toi à la place du joueur. J'ai 23 ans, je commence à prendre mon envol avec Lorient, j'essaye d'aller à l'étape supérieure, et pourquoi pas éventuellement, puisqu'il y a apparemment un club anglais qui serait éventuellement intéressé par le prendre également. Donc peut-être qu'il a dans le viseur après d'aller en Angleterre, mais il veut franchir un palier supplémentaire en France. Certes,
comment tu peux
Manu, mais Marseille, je sais pas. Marseille pour moi, c'est mais évidemment il y a pas photo, il y a pas photo avec Nice. Je suis d'accord avec
mais
toi.
Mais c'est là que
mais je me mets à la place du joueur.
Mais c'est là que la stratégie du joueur, elle doit évoluer. Du moins le raisonnement, il est pas bon. Ouais, s'il pense comme tu le dis, c'est-à-dire un tremplin en signant à Nice ou à Marseille, mais quel tremplin?
Ben justement, sachant que Radcliffe aujourd'hui a fait une proposition pour acheter Manchester.
Il l'a pas acheté encore.
Peut-être qu'il va se désengager progressivement de l'OGC Nice. Donc quelque part, il y a quand même des zones floues, incertaines, c'est des zones d'ombre. Mais moi, je me mets à la place du joueur. Je me dis, si je vais à l'OM, OK,
il y a de la concurrence.
Il y a de la qualité, mais il y a de la concurrence.
Mais c'est normal.
En plus derrière, je me dis, le mec, on joue qu'à une seule pointe. Mais aujourd'hui, je peux pas déloger Sanchez de cette position-là.
Manu, à l'époque, quand t'as signé en Angleterre, t'étais en France. Ouais. Alors, t'avais une cote. Ouais. Voilà, ouais, t'arrives en Angleterre, dans un nouveau pays, dans un club ambitieux.
Oui.
Et même si on te dit, tu pars, tu vas jouer. Mais si t'es pas bon, tu joues pas. Si les mecs qui sont remplaçants,
c'est le système de Tudor, moi.
Mais le système, et moi, je vais te dire, Mofi
à Nice, il a la certitude, la garantie de jouer tous les matchs.
Mais aucune certitude au niveau, tu le sais très bien, c'est des remises en question perpétuelles.
Tu vois, au niveau du mercato à l'heure actuelle, tu vois même certains joueurs dans le niveau de la salle qui veulent partir.
Mais t'es d'accord quand même avec ça que Mofi, 23 ans, bravo ce qu'il fait à Lorient depuis 6 mois, mais il peut pas avoir des certitudes que Marseille lui donne une place de titulaire garantie.
Mais c'est ça le problème, il a 23 ans. Peut-être qu'il a pas envie de prendre ce risque, il a envie de contenir sa progression. Et puis il y a aussi l'environnement. Tu l'as dit, je suis complètement d'accord. Le Mistral n'est jamais très loin à Marseille. Oui. Si ça se passe mal pour X raisons, ça peut très vite se retourner contre lui.
Quand même
il aura un environnement
un
beaucoup plus apaisé à Nice. Donc quelque part, je peux le comprendre, mais je reste persuadé que ça reste une question d'argent.
Ah bah là, c'est encore plus grave. Alors là, c'est encore plus grave parce que il aurait gagné très bien sa vie de toute façon à Marseille. Donc si
Peux comprendre les motivations s'il me fit de rejoindre l'OGC Nice au détriment de Marseille.
Écoute, je sais pas.
Sur le progrès, sur le projet sportif, pour moi, il n'y a pas photo. L'Olympique de Marseille arrive en premier. Mais pour différentes raisons personnelles, on peut comprendre Mofi.
Et Jean-Michel, qu'est-ce que tu penses de cette décision?
Les raisons que tu as mis en avant tout à l'heure, personne ne peut y revenir. Le passé du club, si tant est que ce soit important pour un jeune qui signe aujourd'hui, mais même le présent, même le challenge qui se présente à l'Olympique de Marseille à l'instant T est plus intéressant que celui qui est à Nice. Il y a plein de raisons. L'environnement, le public, l'ambiance. Je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'ai toujours beaucoup de mal à me mettre à la place des autres. J'aime pas qu'on s'occupe de mes affaires. Et j'ai beaucoup de mal à m'occuper des affaires.
Oui, c'est vrai, c'est personnel.
Et donc, je pense qu'il y a là de la part de... Je sais même pas si c'est une question d'argent, de projet, d'imaginer qu'il sera titulaire, pas titulaire, s'ils vont jouer avec deux en pointe ou pas deux en pointe, j'en sais rien. Laissons aussi une part d'humanité et de réflexion personnelle à Mofi. Peut-être que ce garçon-là, je ne le connais pas du tout, je ne l'ai jamais rencontré, peut-être ce garçon-là se sent plus à même de relever le challenge niçois que le challenge marseillais.
Sur le plan mental, tu veux dire, Captain ?
Oui, sur le plan mental, oui, bien sûr, oui, sur le plan mental. Eh bien, donc, moi, c'est très délicat dans ces cas-là.
Jean-Michel, jouer la Ligue des Champions, rassurez-moi,
tu as déjà mis 20 centimes dans le Nourin, on sait que tu vas nous...
On est d'accord,
c'est normal. Tout le monde le sait, Jérôme.
C'est un rêve de gosse de jouer la Ligue des Champions.
Oui, mais peut-être que pour lui aujourd'hui, il ne s'en sent pas capable, ou visible.
Alors expliquez-moi.
Si vous comprenez
la saison à Lorient, va le faire basculer
dans une de dimension.
On ne sait pas.
C'est pour ça qu'il faut qu'il confirme derrière.
Alors, écoute, déjà il y a des joueurs qui ont fait Lorient et des grands clubs. Joueur de Lorient et puis parti dans un grand club et ça réussit. Koscielny, il y en a d'autres qui l'ont fait. Et donc ça, je pense que ça appartient au joueur et à sa personnalité. Mais je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à Nice aujourd'hui qu'à Marseille dans son esprit?
Tout le monde est d'accord avec toi.
On est d'accord avec toi, Jérôme. C'est ça que t'arrives pas à comprendre.
On peut pas se mettre à la place du joueur ou difficilement.
Mais alors, dans ces cas-là, on fait pas d'émission, Jean-Michel.
Mais non.
On essaye de se mettre à la place du joueur. Donc, si tu te mets à la place de Mofi, essaye de te mettre dans la peau de Mofi. Pourquoi tu choisis Nice plutôt que Marseille?
Tu consultes, Jérôme, parce que là,
on peut raconter ce que tu as raconté, faire l'émission et se demander toujours pourquoi. Parce que de toute façon, que tu aies tort ou que tu aies raison, que j'ai raison ou que j'ai tort, de toute façon, à la fin de notre débat, on ne saura pas pour quelle raison, éventuellement, Mofi a préféré Nice à Marseille. On ne le saura pas,
D'accord, Jérôme. Alors toi, je te pose la question. Jean-Michel Mofi, il signe à Marseille ou il signe à Nice?
Moi, je signe à Marseille,
Jérôme.
Oui.
Voilà. Jérôme, pourquoi t'as préféré
Manu Mofi, il signe
à Lyon.
Attends, réponds à Jérôme d'abord.
Ouais. Manu Mofi, il signe à Nice ou il signe à Marseille?
Pardon?
Manu Mofi. Si t'étais à la place de Mofi, tu signerais à Nice ou à Marseille?
Ça fait rêver l'Olympique de Marseille, c'est clair, vu la situation actuelle. Il n'y a pas photo, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, je me pose la question, est-ce que je suis capable dans l'environnement? Parce que je suis pas,
d'accord,
je suis
pas aussi taré que Mofi, en fait.
Non, c'est pas je suis taré, c'est que il a un projet de carrière. Il y a combien de joueurs ont voulu, ils ont été attirés justement par des sirènes de grands clubs, ils ont ciré des bancs, puis au final, ils sont revenus, ils ont été déclassés.
Entre Marseille et Nice, il n'y a pas un écart si énorme non plus.
Mais tu rigoles ou quoi?
Nice, ils sont quand même là pour jouer le haut de tableau, à moyen terme.
Excuse-moi, le grand joueur niçois, il a pris du plomb dans l'aile depuis pas mal de temps, quand même, non?
D'accord, mais là, visiblement, est-ce que
les incertitudes qui se font virer les uns
après
les
autres à partir de cet été.
D'accord, mais sauf
si c'est lui
mais ils n'arrêtent pas, c'est que de la communication.
Il y a
Jean-Louis, c'est que de la com.
Dans ton histoire de plan de carrière, il y a pas un écart si grand entre Nice et Marseille.
Oui, mais sauf que quand moi je suis désolé Manu, je comprends ce que tu dis. Oui, mon plan de carrière,
on dit
non, attends, j'essaye de comprendre de dire le plan de carrière.
Tu me dis qu'il y a pas de grande différence entre Nice et Marseille à l'heure actuelle?
Non, mais je veux dire dans le plan de carrière, si tu as Marseille qui vient te chercher, tu vas à Marseille sans réfléchir. Et je vois pas en quoi serait une étape intermédiaire intermédiaire si importante de faire Nice avant d'aller à Marseille.
Le problème, c'est que à Nice, il a plus de garanties de jouer qu'à Marseille.
Il
a 23 ans, n'oubliez pas ça, c'est pas un joueur de 27 ans.
Hein. Non, mais déjà, Manu, de toute façon, pour un club qui
joue. Combien de jeunes sautent les étapes parce qu'ils sont attirés par les sirènes?
Oui, mais si le club Nice, et je leur souhaite l'année prochaine que Nice joue le haut du tableau, joue la Ligue des Champions, ce qui nous avait été vendu il y a 5 ans, et ce qu'ils n'y arrivent pas, ils n'y arriveront pas encore cette année. S'ils jouent l'année prochaine la Ligue des Champions, dans tous les cas, Mofi, tu ne pourras pas lui garantir une place de titulaire indiscutable si tu n'es pas bon. Et comme à Marseille, s'il arrive là et qu'au départ, par rapport au plan de Tudor, tu te dis c'est une doublure de Sanchez, tu peux te dire aussi que par rapport à l'investissement, et ça leur coûte. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, j'ai passé des coups de téléphone à Marseille. Oui, mais parce que je suis investi. Parce que j'aime ça. J'aime ce mercato, la fin du mercato.
Sur le système qui
mais peu importe. Je sais une chose, c'est que Marseille, ils n'ont pas un radis. Ils n'ont pas un centime.
Mon argent,
donc, ben oui, c'est pour ça que le deal avec Lorient.
C'est pas sportif, c'était, donc toute l'histoire de Manu,
non,
ça tient pas.
Que le deal, c'était Dieng, ils le vendent entre 10 et 15, et comme ça, ils mettent un petit plus pour avoir Mofi. Sauf que Mofi, lui, il préfère, et c'est pas un problème contractuel, il préfère Nice. Donc ça s'est bloqué à ce niveau-là. Mais je ne comprends pas encore comment toi, tu me dis. À Marseille, ils ne peuvent pas lui garantir une place de titulaire. Mais à 23 ans.
Écoute, je te pose la même question. Alors, pourquoi, quand tu étais joueur, toi, tu as choisi de rester de Paris Saint-Germain et pas d'aller voir Barça?
Mais parce que.
Ça n'a rien à voir.
Mais comment ça, ça n'a rien à voir? Je ne comprends pas.
Mais moi, je vais te dire,
Paris Saint-Germain et le Barça,
mais c'est du cœur du PSG, de
l'accord. Alors que le choix sportif était complètement différent entre les deux. Mais c'est pas cohérent ce que tu dis.
C'est cohérent, complètement.
Mais non, ce n'est pas cohérent.
Ce qui est au-dessus de tout. Et moi, je pensais ça.
C'est pas cohérent, les gars, dans ce que vous dites.
Mais laisse-moi finir. Tu parles
avec Jérôme, elle n'a absolument pas lieu d'être.
Mais pourquoi les pas d'accord, Manu. C'est le choix du cœur.
Manu.
Ah d'accord.
Okay. Manu, laisse-moi répondre. Tu me poses une question.
Ah oui, j'adore.
Dire.
Moi, je vais te dire.
Peu importe. J'ai pas signé dans un club de peintres à l'époque. Ils avaient fini deuxième du championnat, le Paris Saint-Germain. Ils jouaient à la Ligue des Champions.
Tu parles du Barça quand même.
Oui. Non, mais attention.
Tu vas pas comparer le PSG avec le Barça.
Tu compares pas Barça et Chelsea. Il y a pas de souci. Après, il y avait quelque chose qui était plus fort que tout et que je comprendrais dans le choix de Mofi, mais c'est pas le cas. C'est que je réalisais mon rêve de gosse.
Voilà, ça n'a rien
et que
à
pour
voir,
moi, bon. Réaliser un rêve de gosse, c'était bien au-dessus de toutes les autres choses.
Ben oui.
C'est tout, c'est comme ça.
Okay,
si mon fils, il était né à Nice,
pas du tout,
si mon fils, il rêvait de Nice, je dirais,
oui,
écoute, exactement. Vas-y, tu réalises ton rêve.
J'aimerais trop qu'il signe à Marseille.
Voilà,
bah écoutez, j'espère qu'il va signer à Marseille.
Voilà, et il signera pas à Marseille.
Moi, encore une fois, c'est l'histoire de l'étape que je comprends pas. Parce qu'en plus, Nice, ils sont derrière Lorient au classement. Donc je vois pas comment, pourquoi ce serait une étape intermédiaire avant d'aller dans un grand club, d'aller à Nice.
C'est surtout.
Tu te contredis, tu m'as dit que le projet niçois était bien.
Mais
je comprends pas ce que tu dis. Tu me dis
ça.
Tout et son contraire en l'espace de 2 minutes.
Manu, là, c'est toi qui nous comprends pas.
Bon,
moi, je vous ai dit que Nice, c'était un beau projet, etc. Que c'était un projet intéressant qui devait venir à se développer. Vous m'avez dit que non.
Vu ce que fait Radcliffe en Angleterre, j'ai le sentiment qu'il est en train de se désengager.
Donc dans ces cas-là, c'est même pas une progression par rapport à Lorient, puisque Nice est derrière Lorient.
Allez, c'est la pub.
C'est ça que je dis.
Voilà.
Bon, Manu, j'ai l'impression d'avoir Jérôme hier tellement.
Non, pas du tout, les gars. Alors, écoutez justement le podcast.
On va donner la parole à Jean-Luc dans une seconde. Est-ce que vous comprenez qu'un joueur préfère Nice à Marseille? À tout de suite.
RMC, 18h20, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h20 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme, bien sûr, on continue nos débats enflammés. Et oui, c'est le cas encore sur ce premier débat sur Mofi. Oui, on en parle avec.
Et puis c'est pas fini.
Avec Jean-Louis Tour, bien sûr, avec Manu Petit, avec Jean-Michel Larquet dans 10 minutes. Eh ben oui, c'est Campos qui va être accusé, qui va être sur.
Il a pas perdu un peu de sa magie, Luis Campos. C'est le roi du recrutement. Il arrive à Paris. Il y a pas un recrutement
PSG,
efficace.
Alors là, attention là.
Ah ça y est,
levé de bouclier, attention.
Ah maintenant je suis un pro PSG. Bah écoute, va dire ça à certains supporters quand je critique.
Eh ben écoute, on verra
tout à l'heure.
Comprenez-vous qu'un joueur préfère Nice à Marseille? On est sur l'exemple Mofi. Jean-Luc nous rejoint au 32-16, Jérôme.
Salut Jean-Luc.
Salut, bonsoir à tous. Salut. Vous êtes super excités les gars, c'est un débat
Mais il fait très chaud sur le bateau en fait. Hein.
Écoute, déjà il fait chaud et de toute façon, je vais te dire Jean-Luc, c'est la passion qui parle. Donc on est des passionnés. Donc qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce débat-là?
Je suis un passionné. Alors je comprends pas, mais ça comme tout le monde. Marseille brille en ce moment. Marseille 60 000 spectateurs, ça peut être un bon tremplin pour lui. Non, je comprends pas du tout. Après on dit qu'il va pas jouer, il est pas sûr de jouer. Sanchez en a marre de jouer en pointe. On le voit, il commence à le dire.
Non, mais c'est le système de Tudor qui joue avec une pointe. Maintenant je sais pas où va mettre Sanchez.
Non, mais Jean-Luc est en train de te le dire. Sanchez peut reculer.
Sanchez recule d'un cran.
C'est ce qu'il veut.
Et Mofi, s'il sait faire, il sait faire. Bon, donc je trouve ça complètement.
Et Guendouzi, bah oui.
S'il veut faire comme Laborde et comme.
Je sais pas, les gars, vous me mettez, vous changez de place. Guendouzi, bah oui, sinon.
Attends, Jean-Luc, une seconde. Manu, qu'est-ce que t'as pris avant l'émission?
Mais non, j'ai rien pris. Mais là, je vous écoute, les gars.
Deux phrases.
Et là, Sanchez recule. Guendouzi, on le met où sur le banc?
Il peut reculer aussi. Il peut être dans la rotation. Il peut.
Vers tout et Roger, tout ça, on les met où? Donc, on met un joueur, on décale tout le monde. Et puis au final, un mec a donné sa définition, on le fout sur le banc.
Ce qui s'appelle un effectif développé. Non, mais Manu, déjà.
Non, mais
alors, moi, tu me coupes la parole.
Non, mais c'est un supporter de l'OM. Jean-Luc, prenne la défense justement de ce qu'a dit Jérôme. Je veux bien, mais qu'on demande un supporter de l'OM.
Jean-Luc,
c'est Nice aussi.
Jean-Luc, vas-y, continue.
Vous faites rigoler, les gars.
Vas-y.
Non, attendez. Donc voilà, il n'est pas sûr de jouer. Il n'est pas sûr de jouer à Nice.
On les connaît.
Delors est allé à Nice. Laborde est allé à Nice.
Parce que.
Ils ont brillé à Montpellier, et puis ils sont allés à Nice, ils se sont plantés. Deuxième chose. Il y a autre chose qui m'inquiète, c'est Bamba. Bamba, ça sert comme monnaie d'échange. Ouais. On le met ici, il va revenir. S'il revient, si jamais on n'arrive pas à le vendre au prix, on va récupérer quoi, le pauvre Bamba? Il devait partir cet été, puis il part cet hiver, et puis, non, ça c'est pas joli, j'adore Longoria, mais ce qu'il fait, il a fait comme il a pu, mais je trouve que si jamais on le vend pas, c'est catastrophique. Après, voilà, ça fait chier qu'il vienne pas, mais c'est pas grave, on va se débrouiller sans lui. Comme dit Jean-Michel, on peut pas se mettre à la place des gens. Il doit savoir certainement pourquoi il le fait. Bon, il veut pas venir chez nous, il vient pas, mais ça, oui, ça.
Une question d'argent, sûrement.
C'est une question d'argent. Alors, si c'est une question d'argent, c'est bête. Après, voilà, je suis supporter marseillais, je suis peut-être pas. Peut-être, comme on dit,
objectif. Je sais pas, non, mais Jean-Luc, c'est pas une question d'être objectif ou pas. Moi, je suis pas supporter marseillais. J'aime le foot français, et je trouve qu'il évolue, le foot français, dans le bon sens depuis un certain temps. Je pense en effet qu'à Marseille, il y a plus d'engouement, beaucoup plus d'engouement que dans la plupart des autres clubs. Donc, quand je pars du principe que t'es un joueur qui joue dans un bon petit club en Ligue 1, qui fait 6 bons mois exceptionnels avec son club, bien au-delà de ses espérances, j'imagine quand même que Marseille, ça fait rêver. Et c'est ça, moi, le souci que j'ai avec Mofi.
C'est ce que tu viens de dire.
Mais oui, mais
Marseille doit trop
Marseille,
peu à l'heure actuelle.
Marseille doit faire rêver. Mais qu'est-ce que le joueur Mofi, tu crois qu'il a assez de recul pour se dire oh, j'ai fait que 6 bons mois?
Tu doutes de l'intelligence de Mofi.
Non, t'as pas le droit. Non,
j'ai pas dit qu'il était con. J'ai pas dit ça. J'ai dit que n'importe quel joueur qui réalise 6 bons mois au haut niveau en Ligue 1 avec un club comme Lorient et qui met Lorient en haut du classement alors que personne ne s'y attendait, j'imagine que les joueurs peuvent pas avoir assez de recul aujourd'hui, mais c'est logique.
L'environnement de Lorient n'est pas celui de Marseille.
Ouattara, ils l'ont vendu combien? 27 millions. Mais c'est un génie, le président Ferry. 27 millions pour Ouattara. Mais là, et moi, je l'emmène, c'est moi avec la barque.
Tu l'emmènes avec le ferry.
Ah ouais, avec une barque, avec le ferry.
Bah donc, bon courage avec la barque. Jean-Luc, je crois qu'il faut mettre ta ceinture. Je te le dis comme ça.
Désolé, Jean-Luc.
Je crois qu'il faut que tu mettes ta ceinture. On a entendu les bips et tout. À un moment, il faut la mettre quand même. Voilà.
Bon, les gars, merci beaucoup.
Bah, merci à toi.
Jean-Luc, roule doucement. Pas trop vite sur la route, Jean-Luc.
Non, mais à Marseille, on roule doucement. On dépasse pas le 160.
Ah, ça me plaît, ça. Ça, c'est un beau discours.
Jérôme, il y a du sang marseillais.
Il y a Jérôme aussi qui fait du 160.
Jean-Luc,
permis.
Jean-Luc, tu sais ce que je fais, moi? Je me mets à 170, comme ça, t'es sûr de pas le perdre, le permis.
Mais c'est Sardou qui a dit que à 160, c'était juste comme il fallait, qu'il emmerdait les flics.
C'est le moment où je dois vous dire quand même qu'il faut respecter les limites des
On l'embrasse, le grand Michel, parce qu'il nous écoute tous les jours.
C'est un délit de faire des excès de vitesse. Je tiens à le rappeler à tous ceux qui nous écoutent.
Même si on est pas d'accord, il faut
tout de suite les grands mots.
C'est un délit de faire des excès de vitesse.
Mais quand t'es tout seul sur la route.
C'est un délit. Quand il y a des règles à respecter, ça s'appelle la société.
Non, mais on peut plus rien faire. On peut plus rien faire.
Ah bah non, on peut plus rien faire. C'est illégal, effectivement.
Non,
oui.
Non mais sérieux, Jérôme.
Même Mofi, il peut rien faire.
Je te jure.
Il faut qu'il aille à Marseille.
Quand il y a une voiture à 125, tu veux la doubler. T'es obligé de dépasser 130. Sinon, tu la doubles.
Non, à 130, tu la doubles. Si elle est à 125 et toi à 130, tu la doubles. À un moment, tu vas la doubler.
Tu peux la doubler sur la droite aussi si tu veux.
Et je peux te dire que
ça va pas assez vite pour toi, mais tu vas la doubler.
Et à 170, en deux secondes, tu la doubles.
Il y a même mieux. Tu la tamponnes aussi, comme.
Je sais pas, j'ai jamais roulé à 170.
Jean-Louis, Manu et Jean-Michel, on a le droit de conduire avec les genoux quand même quand t'es tout seul.
Arrête, bien avec sûr. Ça.
Bah, quand bien on est sûr. Petit comme toi, oui.
Et à écrire des textos. Et
Manu,
tout,
tu conduis avec autre chose, toi, Manu.
Ouais. Oui, merci. Ouais, allez, ouais. Respectez les limitations de vitesse.
Oui,
de
non, mais ça, c'était
vas-y,
avant.
C'est, bon.
c'est quelque chose de grave, on peut pas en rigoler. Moi, ça me fait pas rire.
De quoi? Non, bien
la
sûr.
La sécurité routière.
Mais je fais les préventions pour la sécurité routière. Qu'est-ce que tu vas me donner?
Sérieux?
Des leçons?
Ouais.
Bah, bien sûr.
T'as toujours le permis.
Écoute, faut faire attention, oui.
Moi, je te donne pas de leçons, Jérôme.
Oui.
Je te les donne tout seul. Dans une seconde,
toute la police.
quand même, ça suffit plus là.
Et toutes les préfectures.
Bah, j'ai la police et aussi, tu peux mon racisme.
Et pensez à moi.
Ah, oui, oui, faut penser à toi. Dans une seconde, Luis Campos. A-t-il perdu le mojo, comme disaient les jeunes?
Non.
Mais oui. Encore même pas les
qui
jeunes.
Qui sait qui les a
bon, Louis. Accusé d'avoir perdu de sa magie là, sur les mercredis.
Je suis là, Louis, t'en fais pas.
C'est dans une seconde, à tout de suite.
RMC, 18h20, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h30 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme, bien sûr. La deuxième demi-heure qui commence. Et on est là, bien sûr, jusqu'à 20h comme tous les soirs. À 18h45 dans 15 minutes, c'est le moment de Julien Cazard. Il est en forme en ce moment, restez bien avec nous. Restez à l'écoute, on s'éclate, on passe des bons moments. Avec Jean-Michel Larquet, avec Manu Petit et avec Jean-Louis Tour. Jean-Louis, on continue notre programme.
Et oui, et place à Luis Campos.
RMC, Roten sans flamme.
C'était impardonnable, c'était pas le mot. C'était indéfendable. Qui n'est pas défendable?
Faites entrer l'accusé.
Et là, on met les pieds dans le plat. On n'a pas notre langue dans notre poche, dans Roten sans flamme. On ouvre le dossier des récents mercato du PSG. Les recrues de l'été dernier n'ont pas convaincu à différents niveaux. Hein. On parle de Soler, de Ruiz, de Sanchez, de Vitinha, de Mukiele, d'Ekitike. Sur ce mercato d'hiver, rien n'a bougé pour l'instant. Le dossier Skriniar est toujours en stand-by et on sait depuis hier donc que Paris est sur Ryan Cherki. Alors Luis Campos, l'homme qui a constitué l'équipe de Lille, championne de France en 2021, le Monaco champion en 2017, est accusé d'avoir perdu de sa magie, de sa réussite sur les mercato. L'accusation est menée par le procureur Jean-Michel Larquet. Bonsoir, monsieur le procureur.
Bonsoir.
L'avocat de Luis Campos, c'est maître Jérôme Roten. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et le juge qui va écouter religieusement et trancher, c'est le juge Petit. Bonsoir.
Bonsoir, messieurs.
Monsieur le procureur, vous reprochez quoi à Luis Campos?
Bah, vous avez déjà évoqué beaucoup de ces problèmes, mais plutôt que de prendre nos propos et d'avoir nos idées, il suffit de se rappeler de ce que disait Campos dans l'émission Roten sans flamme il y a quelques mois. Il n'était pas content de son recrutement, il n'était pas content de son mercato, et comme on le comprend, vous avez évoqué là, monsieur le rapporteur, les arrivées de Mukiele, de Vitinha, de Soler, de Fabian Ruiz et d'Etiquité. On ne peut pas dire que ce soit des joueurs qui est du jour au lendemain, ou même du mois d'août au mois de décembre, changer le visage total de l'équipe. L'équipe aujourd'hui, si, on ne sait pas de quoi la suite sera faite, mais si au cours de la première période, elle a été parfois séduisante et surtout très performante, on le doit à des événements très simples. Évidemment, l'exceptionnel réussite, ou plutôt l'exceptionnel talent de Mbappé, un retour en forme de Messi et une préparation adéquate de Neymar pour la Coupe du Monde. Voilà. Donc je pense que personne ne conteste que le Paris Saint-Germain, au cours des 4 ou 5 premiers mois de cette saison, s'est transfiguré, ou en tout cas a été en amélioration, grâce à ses joueurs, et surtout pas, et certainement pas, grâce à l'arrivée de joueurs qui étaient des joueurs d'appoint et qui n'apportent pas, même quand ils entrent dans une équipe qui tourne, qui n'apportent pas beaucoup de changements. Et puis, le dernier point, c'est que, outre Campos, puisque le binôme marche plutôt bien, et je ne le conteste pas, mais Galtier disait, il n'y aura pas de mouvement, sauf en cas de départ, parlant oui. Du mercato d'hiver. Il y a eu un départ, celui de Sarabia, et les recruteurs se sont tout de suite jetés. Je ne veux surtout pas réouvrir le dossier Cherki, cher Jérôme Roten, hein, surtout pas. Mais ils se sont jetés sur Cherki comme si c'était obligatoirement et une priorité des priorités dans l'amélioration de l'équipe, alors que depuis des années, on considère que c'est certainement au milieu de terrain, voire derrière, qu'il faudrait trouver des joueurs de talent. Donc, je pense que Campos a fait un recrutement lambda, pas catastrophique, mais lambda, mais en tout cas, certainement pas à la hauteur de son talent et certainement pas à la hauteur des ambitions du Paris Saint-Germain.
Parole à la défense.
Bah, la défense, elle est très claire. Je pense que au début de l'année, quand Luis Campos est arrivé avec Christophe Galtier, il voulait changer beaucoup de choses dans le projet du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire des joueurs peut-être en recrutement moins claquant, parce que les finances, parce que le fait d'avoir trois stars devant, bah, peut-être que ça suffit dans un premier temps et qu'il fallait trouver des bons compléments d'effectifs Après, ça n'empêche que des ponts compléments d'effectifs peuvent devenir des bons joueurs, des très bons joueurs au niveau du Paris Saint-Germain. Là où je vous rejoins, et je rejoins Monsieur Larquet, c'est que, en effet, il y a des déceptions dans le recrutement pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Pas facile de s'adapter à un club comme le Paris Saint-Germain. Pas facile de s'adapter à un pays comme la France quand tu viens de l'étranger. C'est le cas de certains. On est déçu, en effet, de l'évolution pour l'instant d'un jeune joueur prometteur comme il l'a montré à Reims et qui tiquait. Oui, je pense que le club est déçu. Luis Campos est déçu. J'espère que lui-même, le joueur, est déçu de ce qu'il a apporté et de sa progression depuis 6 mois. Mais n'empêche que il faut pas le condamner non plus, ce joueur-là. Il a montré des qualités. Je reste persuadé que, avec un peu plus d'expérience, il arrivera à trouver la mesure de son évolution et puis surtout montrer son talent. Moukiele a eu pas mal de temps de jeu, mine de rien, a montré des faiblesses, mais aussi des qualités par moment. Des qualités qui faisaient de lui un des meilleurs latérales en Allemagne. Donc c'est pas n'importe quoi. Il est devenu international aussi en jouant en Allemagne. Donc c'est pas un recrutement bidon. Ça a eu le mérite au moins d'investir un peu d'argent. Maintenant, lui aussi doit trouver la pleine mesure de son talent au Paris Saint-Germain. Les choix un peu plus où on pourrait parler, où je pense qu'il a manqué de dimension de club, mais ça pour lui aussi c'est nouveau à Luis Campos. Quand tu recrutes pour l'AS Monaco, tu recrutes pour Lille, tu recrutes pas de la même façon à Paris. Et peut-être qu'il a été un petit peu rattrapé par la patrouille parce que ce club-là demande encore plus d'exigences et que Sanchez c'est décevant. Mais on pouvait l'imaginer. Solaire, très très décevant. Le fait d'avoir gardé Sarabia.
Et vous rejoignez un peu le problème.
Mais laissez-moi. C'est décevant. Oui. Ça, c'est la réalité. Il a eu des manques sur le premier mercato d'été. On va pas le condamner au bout de 6 mois sous prétexte que la plupart des joueurs ont eu du mal à s'adapter. C'est à différentes échelles.
Il pouvait pas l'anticiper, ça?
Mais tu peux pas anticiper. Tu peux pas être dans la tête d'un joueur. Tout à l'heure, vous me parliez de Mofi. On peut pas se mettre dans la tête de Mofi. Eh ben, arrêtez. Vous mettez pas dans la tête de Ekitike, de Moukiele. Ou de certains joueurs. Non, mais dans ces cas-là, laissez le temps. Il y a des joueurs qui s'adaptent très facilement. D'autres avec 6 mois, une année. Eh ben, il n'y a pas de souci. On va laisser la chance au produit. Moi, je reste persuadé que Luis Campos a mis des choses en place qui ont fait évoluer le club. Pour l'instant, c'est insuffisant. D'accord? Sur le mercato d'hiver, on va pas le condamner parce qu'il veut recruter Cherki à la place de Sarabia. Parce que financièrement, le fair play financier est passé par là. Et qu'ils ont une enveloppe, et ça je vous le dis, parce que c'est la réalité, de 20 millions d'euros. Quel grand joueur vous recrutez pour 20 millions d'euros en cours de saison? Aucun. Aucun. Donc, t'es obligé de faire des coups. Il tente de faire un coup pour remplacer numériquement Sarabia. Après, laissez-lui le temps. Au bout d'un an, au mercato d'été, il y aura peut-être du bouleversement, des joueurs qui vont partir, d'autres qui vont arriver.
Cher maître, s'ils n'ont que 20 millions à dépenser aujourd'hui,
oui.
Je pense que sur Moukiele, Fabian Ruiz, Soler, Ekitike et Vitinha, je pense qu'ils ont mis beaucoup, 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 beaucoup plus que de 20 millions.
Excusez-moi,
c'est pour ça qu'il y a quand même une petite enveloppe maintenant.
La bourse est vide.
On connaît la complexité du projet Paris Saint-Germain à partir du mois de juin, c'est-à-dire qu'il y avait deux directeurs sportifs. Il y avait Antero Henrique et il y avait Luis Campos. Luis Campos, c'était pas tout seul. Il y a des joueurs qui sont arrivés. Ça a été validé par Antero Henrique dans un premier temps. Là, aujourd'hui, il a repris la mainmise sur le club. C'est lui qui décide. Donc là, à partir du mois de juin, on pourra le juger sur son efficacité. Mais moi, je crois encore à ses qualités. Il n'a pas montré des choses aussi intéressantes à Monaco, à Lille, pour être devenu un tocard au Paris Saint-Germain.
J'en ai marre que
quand il y a quelqu'un qui signe au Paris Saint-Germain, on dise... Il est nul le joueur. Il fait deux mauvais matchs, et il est nul, il s'adapte pas. Lui, le directeur sportif, c'est un tocard.
Mais t'en as marre, si c'est la vérité.
L'entraîneur, j'en parle même pas. Voilà. Donc,
Et qu'est-ce que t'as dit de Pochettino quand il était là l'année dernière? Je sais pas,
non,
moi.
Non, mais bon. Vous avez jeté des entraîneurs, ils sont devenus champions d'Europe derrière. Ils y étaient même avant.
Et toi, et Pochettino, c'est tu l'as pas l'année dernière.
Non, j'ai toujours défendu.
Pochettino, je te parle, Jérôme, écoute ce qu'on dit. Pochettino l'année dernière.
Mais qu'est-ce qu'il a fait, Pochettino?
Il a été très bon avant. Mais
il est où,
Pochettino? Peut-être un autre club.
Il est où? Il entraîne le Real?
Non, là, il a rien, mais avant.
Bon, bah, ça va.
Bon, vas-y. Manu, ça va.
Non, mais, excuse-moi, Jérôme, mais moi, je suis à fond derrière Captain parce que.
Ah, tu condamnes Campos, toi?
Mais non seulement je condamne la politique de recrutement du Paris Saint-Germain depuis X années parce que. On a bien ciblé justement les défaillances à la fois dans les profils, mais également sur le plan mental des joueurs, sans parler des qualités des joueurs. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la majorité des joueurs, depuis que Campos est arrivé, ce sont des joueurs de complément qui se ressemblent beaucoup, notamment au milieu de terrain. Il y avait des déficits sur certains positionnements, et ce, depuis quelques années. Et on se rend compte que, moi, j'étais extrêmement excité avec l'arrivée de Campos, parce que je me suis dit, le gars, il transforme du plomb à chaque fois avec de l'or. Et il arrive à nous dénicher justement des pépites, parce qu'il s'intègre parfaitement à la fois dans le système, mais dans la mentalité. Il fallait absolument changer la mentalité de ce vestiaire. On se rend compte qu'aujourd'hui, non seulement ce sont des joueurs de complément, mais qu'ils sont même pas là pour concurrencer les joueurs qui sont là depuis quelques années. Donc pour moi, c'est pas bon, c'est même très mauvais.
Mais il est bloqué avec certains contrats, Manu. Je comprends pas moi.
Les contrats.
Tu peux pas mettre les gens dehors comme ça. Il faut du temps.
Eh ben excuse-moi, alors explique-moi alors pourquoi les joueurs qui ont été encore dégagés du Paris Saint-Germain flambent dans les clubs où ils sont. Explique-moi pourquoi les entraîneurs qui ont été dégagés ont été champions d'Europe.
Quel joueur qui dégage du PSG flambe?
Mais Icardi flambe avec le. Excuse-moi. Alors pourquoi les entraîneurs que tu vires du Paris Saint-Germain deviennent champions d'Europe après dans les autres clubs?
La question
se pose quand même. On attendait à la fois de Christophe Gatier et on attendait également de Campos qui nous révolutionne ce vestiaire. Chose.
Ancelotti, oui.
Mais excuse-moi, ils ont pris trois tannées depuis le début de saison, ils se sont fait rouler dessus par des joueurs qui non seulement n'ont pas leur standing, mais par des clubs qui n'ont même pas leur budget. Donc, tu me parles d'argent, l'argent ils l'avaient gaspillé.
Pour vous le recrutement,
l'argent ils l'ont gaspillé bêtement sur des joueurs qui pour moi sont des joueurs de complément.
Donc voilà. Ruiz n'a pas fait un bon match, Mukiele n'a pas fait un bon match. En fait, c'est ça.
Excuse-moi.
Parce que Ruiz, désolé, il s'est imposé.
Jérôme,
il fait des bons matchs,
bon recrutement.
Là, il est un peu dans le jeu actuellement.
Jérôme, un bon recrutement, c'est ce qui te permet de faire progresser l'équipe et de changer mentalité, de venir concurrencer des titulaires.
Toi, qui es passionné de foot, qui voit beaucoup de football.
Certains s'endorment dans leur confort parce qu'ils n'ont pas de risque d'être délogés.
Dans cette émission,
je vais vous dire une chose.
Je suis juge.
Ok, que j'ai perdu. Ok, que vous avez condamné Campos. Moi, il y a quelque chose aussi que j'ai noté, que Campos, il essaye aujourd'hui de ramener un peu plus de Français dans le vestiaire. Peut-être que à force il va y arriver et ça va changer.
Mais combien d'années pour se rendre compte ce qu'il faut faire?
Mais ça fait 6 mois qu'il est là.
De gens qui ont fait du travail extraordinaire à Monaco et à Lille.
Mais ça fait 6 mois qu'il est là.
Même lui, il tombe dans une certaine médiocrité à l'image des joueurs qui sont achetés.
Va loin,
non mais
quand même.
Sérieux.
Arrête.
6 buts et 4 passes décisives pour Icardi. Je vous donne cette stat en passant. Voilà. La renaissance d'Icardi a bien lieu.
Quel formidable joueur.
Wanda nous manque.
Non, mais bon, on peut parler des entraîneurs aussi qui sont tous champions d'Europe depuis qu'ils sont partis du PSG.
D'accord. Bah écoute. Pas de problème.
Ah, mais condamné, ça peut être long aussi.
Condamné. Vous avez le droit de condamner, hein. De toute façon, on a le droit de pas être d'accord.
Mais Jérôme, t'es d'accord avec moi?
Non.
Il y a un problème dans ce club.
Non. J'ai cru comprendre.
Il y a un problème dans ce club.
Ok.
Allez, on arrête là. Et dans une seconde, Julien Cazard. À tout de suite.
RMC, 18h20, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h46 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme, les 10 dernières minutes de la première heure. Et on sera là après 19h avec Manu Petit, avec Jean-Michel Larquet et avec Jean-Louis Tour jusqu'à 20h, comme tous les soirs. Mais avant, c'est le moment de Julien Cazard avec son Cazard enchaîné, Jean-Louis.
Allez, on y va.
RMC, Roten sans flamme.
Le Cazard enchaîné.
Bonsoir à toutes et à tous. En préambule de ce journal, je voudrais évoquer le tennis, parler du tennis. Alors je sais ce que tu vas te dire, Jean-Louis. Ah cool, le président de la FFT a été pris à la main dans le sac à bonbons. Il en garde à vue pour tripotage de berlingot dans les douches de Roland-Garros. Non, Jean-Louis, pourtant je suis aux aguets. Hein. Je peux dire, Jérôme, je scrute dans le sillage des trois rois mages, la Martini, le Grette et la Porte. Il n'y a pas un nouveau là qui met un petit Jésus dans la crèche pour aller à Fleury-Mérogis. Non, rien à signaler, même à la fédé de natation. Alors pourtant, franchement, il y a des meufs au maillot de bain dans tous les sens. Mais le mec, non, il y craque pas. Et moi, je dis respect. Bravo au président de la fédé de natation. Hein. C'est quand même autre chose que tonton Zizi, rue de Grenelle, qui tremblote du calcif dès qu'il y a Véro de la Canta qui apporte un café. Bref, je voulais parler de tennis. Et plus particulièrement d'une joueuse. Peut-être vous en avez entendu parler. Une demi-finaliste de Melbourne. Cette fille s'appelle Azarenka. Vous avez entendu ça? Oui. Azarenka, elle est biélorusse.
Ah oui, oui.
Et elle est supportrice du Paris Saint-Germain.
Et oui.
Elle arrivait sur le court central carrément avec le maillot du PSG sur les épaules.
C'est vrai.
Bon, évidemment, dans la foulée, elle a perdu.
Bon, bah, elle a fait demi-finale, quand même. Elle l'a fait à tous les tours.
Ça, ben, c'est une pensée à porte-bonheur. Elle s'est dit, ça sent la gagne, je vais le mettre. Bon, voilà. Tu t'habilles en lapin, faut pas t'étonner de te prendre un coup de chevrotine. Donc, cette fille, tu dis, bon, c'est normal. Ça va être une gamine. Pas du tout. Elle a 33 ans. L'âge auquel tu commences à vibrer pour un club, normalement, c'est l'adolescence quand t'as 15, 16 ans. Donc, on va m'expliquer que cette fille, à 15 ans, en 2005, elle vivait dans la banlieue de Minsk et elle s'est dit « Waouh, Jérôme Rotin, Fabrice Pancrate, Sylvain Armand !»
Non, non, je pense que les deux derniers, non, mais moi, oui.
Ah ouais, mais il y a Victoria,
je l'ai croisé plus
il y a fois. Galactique, il y a Zidane, il y a Figo, ah non, les Tizi, Christophe Landré, Bernard Mendy, mais Barça, Ronaldinho et toi, oh non, Christian Rodriguez, Jean-Michel Badiane, enfin, ça fait flipper quand même. Hein. Donc tu dis non, alors, ça fait bien. Alors en cherchant bien, j'ai vu que non, elle est supportrice du PSG depuis la signature de Beckham. Alors là, je sais pas ce qu'il faut dire. Je sais pas si c'est plus glorieux. Je crois que c'était plus glorieux d'être supporter de l'équipe de Fabrice Pancrate. Hein. Surtout que David Beckham, en 2005, il était déjà là. Au PSG, c'est juste qu'il était de l'autre côté. Hein. Beau gosse, les cheveux en arrière. Hein, Jérôme.
Ah oui, le Beckham français.
Je te fais. Bon, après, attention. Hein, il avait pas de problème d'excès de vitesse, David Beckham. Hein.
Il a eu d'autres problèmes.
Il a eu d'autres problèmes. Mais attention, je tiens à rappeler aux gens, Jérôme Rotten n'a jamais eu un excès de vitesse sur le terrain, en tout cas. Jamais. Alors ça, je vous mets au défi de le choper. Allez, j'ai le sommaire.
C'est vrai, ça.
Je parle souvent des journalistes dans ce journal, hein, des influenceurs marseillais. Mais il y en a un, le petit nouveau, vous le connaissez, Romain Canuti, qui nous vient de la province, charmante région, et qui nous écoute sûrement et qui a apporté non seulement son expertise du football de Marseille, mais du football de Ligue 1, du football hexagonal, mais aussi nous a montré qu'il maîtrisait la Première Ligue. Ça, c'est la nouvelle génération. Nous, on est là, on est avec notre petite Ligue 1. Par exemple, le sujet hier, c'était Bamba Dieng, qui se retrouve bloqué à l'OM, on en a parlé. Alors en début de saison, il a eu deux occasions de transfert, des opportunités, notamment à Leeds, et il n'y était pas allé. Et Romain Canuti, lui, il savait que c'était pas une bonne idée. Écoutez,
regarde ce que fait Leeds cette saison. Au final, Bamba Dieng, au lieu de s'entêter à Nice avec ses conseillers, il aurait peut-être mieux fait de choisir Leeds. Hein. Quand tu vois la saison de Leeds,
je te précise Romain que Leeds est 15e de Première Ligue. Hein.
Ouais. Ah, c'est vrai que c'est con. Car le mec, il aurait pu être 15e de Première Ligue.
Ah, Romain, ouais, il a dit que dans le contenu, ils ont fait de bonnes choses.
Ah ouais, mais dans le contenu,
c'est vrai. Petit
ouais, tout bon, lui fait contenu. On a vu moins de matchs de Leeds que lui, bien sûr.
Ah mais dans le contenu, toi, Jérôme, bon, t'as divorcé, mais dans le contenu, c'était bien.
Dans le contenu, c'était bien.
Dans le contenu, c'était bien. Bon, c'est pas ce qu'a dit le juge au niveau du.
Non, là, c'est vrai.
Mais non, il t'a dit, mais dans le contenu, monsieur le juge. Le problème, c'est que Leeds.
Il a été sévère avec moi.
Le problème, c'est que Leeds, c'est l'ancien club de Bielsa et forcément les Marseillais, ils sont pas très lucides quand il y a Bielsa qui est passé. C'est terrible. Bielsa à Marseille, c'est un peu comme Baba pour les fans Zouz. Alors, attends, avec tout le respect qu'on a pour les Marseillais, c'est quand même pas des débiles non plus. C'est ça la différence. Mais c'est vrai qu'ils ont une petite passion hein, pour Bielsa. Et toi, Jérôme, tu penses que Bamba Dieng, par exemple, tu le verrais dans quel club de première ligue?
Bamba Dieng.
Ouais, tu le verrais où?
Tu verrais quoi, toi? Ah, pardon, Jérôme, je t'interromps. Pardon, excuse-moi, sinon on s'en fout. Je t'interromps car nous avons une alerte mercato, visiblement.
Ah.
Ceci est une alerte.
Transfert!
Lorsque vous entendrez cette sirène et que vous verrez ce message, cela signifiera.
Là, qu'il y a un transfert!
Comme nous vous l'avons annoncé hier, aucun mouvement n'a été constaté par nos correspondants.
Là, c'est chaud. Hein. Alors, bien sûr, encore une fois, cette information est à prendre avec des pincettes. Hein, c'est du conditionnel. Alors, toutes les cellules du fast-checking, pardon, de la rédaction des RMC BFM sont sur le coin, ainsi que la team investigation Bartoli Time, sur laquelle on compte beaucoup depuis l'affaire Le Graët. Bartoli Time, tu rigoles, ne rigole pas, Jean-Louis. Bartoli Time, grosse émission de football. C'est juste après le match de 17h le dimanche.
Bah, oui.
Bartoli Time, ne pas manquer ce week-end. Mario Bartoli décortiquera l'échec Pablo Sarabia, PSG.
Vous connaissez bien le foot, Marion.
Ah bah attends, elle m'a dit Sarabia, il est pas à son avantage sur le gazon du Parc des Princes, je le verrai mieux sur de la terre battue. C'est à laquelle la réponse à laquelle elle répondra dans Bartoli Time dimanche, bien sûr. Et pour revenir, non, c'est important. Pour revenir sur notre info transfert exclusive, nous allons rejoindre notre correspondant à Lyon, Edouard G, notre doudou du 69, comme on l'appelle au Black Donjon de la place Delcourt. Edouard, est-ce que vous nous entendez? Oui, tout à fait. Donc là, en ce moment, vous êtes à Lyon? Oui, enfin plus exactement, je suis du côté de Lyon, hein, du côté du siège de l'OL. Et pour l'instant, ben, je dis bien pour l'instant, du côté des dirigeants lyonnais et du côté des joueurs, rien de nouveau. Moi, j'ai rien vu. Donc vous nous confirmez bien que vous n'avez aucune info, c'est officiel. Ah oui, ça devrait être officialisé dans quelques instants, mais en effet, aucune info du côté de moi. Merci Edouard G. Donc nous vous retrouvons dès que vous en savez plus ou pas du côté de chez vous.
Les envies prennent vie du côté de chez vous avec les magasins Leroy Merlin.
Et Edouard G. Dès qu'on a du nouveau du côté d'Edouard G, on y va. Dans cette édition, nous reparlerons aussi de la Fédération française de football. Ah. On a ouvert une bouteille. Vous le savez, c'est un véritable panier de crabe et un homme s'érige contre tout ce système. C'est l'ancien président de la Ligue, Frédéric Thiriez, vous le saviez ça? Qui s'était présenté contre Noël Le Graët. Déjà, il était l'invité de l'After hier soir.
Oui.
Alors, on l'a vu, Noël Le Graët a été fragilisé par les polémiques sur notre antenne et surtout dans l'After. Hein, donc, il faut mieux nous avoir dans son camp que contre. Eh bien, Frédéric Thiriez, lui, était dans l'After car c'est un homme libre. Un homme indépendant, et ne comptez pas sur lui pour faire de la lèche aux médias. Je préfère vous prévenir.
Candidat lors de la dernière élection. J'essaie d'apporter des idées. Wow. C'est ça qui m'importe, et c'est pour ça que je suis là à l'After Foot, qui est la messe du football.
Mes frères, mes sœurs, chers fidèles, merci d'être présents à cette église Saint-Gilbert de l'After. Merci de votre présence afin de porter la parole du Christ, la parole divine de Daniel Yolo. Saint Daniel et ses apôtres Stéphane, Gilbert, Polo, Florent, Kevin et les autres. Ensemble, prosternons-nous devant notre Seigneur Daniel et implorons son pardon pour toutes les fois où nous avons douté. Oui, douté de sa parole divine alors qu'il avait tout dit avant tout le monde. Pardon Daniel, 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 pardon Daniel.
Ça donne envie d'aller à l'église, non? Vous trouvez pas? Non, il en fait, je trouve qu'il en faisait pas trop, moi, Frédéric Thiriez.
Il en fait jamais trop.
Jamais. Non. Alors, je peux te dire que, bah, il avait pas dit pareil quand il était venu à Rantaine sans flamme.
Oui, peut-être, oui.
La plus grande émission
candidat,
de football.
Il est pas candidat.
Non, il est là pour donner des idées.
Parce que il est pas candidat. Il a dit, arrêtez. À un moment donné, on lui posait plus la question. Alors donc, sinon, arrêtez, je ne suis pas candidat. Même si je suis le seul. Ah, ils sont bons, les mecs. Dernière info, là, c'est une dernière info. Je vous laisse, c'est une vraie info. Ça vient de Belgique. Ah. Ce qui vient, c'est qu'avec la Belgique, t'as pas besoin d'en rajouter. Donc, je veux dire, hier soir, c'était la cérémonie des souliers d'or, qui est le trophée UNFP belge. Ouais. Eh bien, on remettait les prix, et sur le podium, chez les femmes, donc il y avait une gardienne. Et en troisième, sur le podium, il y avait une jeune joueuse de 21 ans. Et le présentateur, le Hervé Matou flamand, hein, il est allé à la table de la fille pour la féliciter. Il a fait une interview de 3 minutes de la nana. Sauf qu'il a interviewé sa sœur. La fille était à côté. C'est comme ça. C'est-à-dire que nous, on nous reproche de ne pas s'intéresser au foot féminin. Mais quand tu commences à faire une interview de 3 minutes à la sœur de la meuf qui est à côté.
Donc mais c'est répondait normalement, la sœur?
Ah, mais la sœur, elle est hyper mal à l'aise. Je vous invite à aller regarder.
C'est pas un frère de Daniel Leclerc?
Oui, j'allais dire, on a ça aussi en France. Hein.
Alors, oui. Nous, on les a. C'est-à-dire que. Mais nous, ils ont une excuse. Ils sont à 3 grammes. Lui, il était à jeun, le mec.
Il avait appelé Kylian.
Taylor Moore.
Voilà,
Taylor Moore. On est avec Taylor Moore.
Non mais là le mec, il n'était pas très connu. Là la meuf,
hein.
Il va à sa table. La meuf, elle a été nommée sur le podium et il arrive à se tromper. Il parle à la fille d'à côté. Ça arriverait pas les frères Pogba puisque Paul Pogba il inviterait pas ses frères. Non mais il y a pire qu'un présentateur qui confond, qui prend une sœur pour un frère ou pour le contraire. Il y a Campos. Lui, il s'est trompé, il a carrément pris les cousins de Ruiz et Solaire. Sauf que nous, on l'a dans l'os. Allez, à tout à l'heure. Et il y a peut-être un grand chelem. Ah bah non,
c'est vrai. Non, un petit, un grand chelem camembert.
Quel dommage.
C'est le Casar enchaîné.
Réécoutez Julien Casar en podcast sur rmc.fr et l'appli RMC.
Julien de retour pour le quiz tout à l'heure à 19h45, dans une seconde. Jean-Michel Aulas joue-t-il sa crédibilité sur le dossier Cherki, puisqu'il s'est engagé, il s'est mouillé. Le débat dans une seconde, 32-16, à tout de suite.
RMC jusqu'à 20h,
Roten sans flamme.
RMC 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h sur RMC, toujours dans Roten sans flamme. C'est la deuxième heure de Roten sans flamme du soir. Et oui, déjà elle est passée vite cette première heure. Si vous l'avez ratée, bah, c'est pas bien. Elle est déjà disponible en podcast, donc vous pouvez aller la télécharger. Mais attendre la fin de l'émission, on est là jusqu'à 20h comme tous les soirs avec Jean-Louis Tour. Ce soir avec Manu Petit et avec Jean-Michel Larquet, on continue nos débats. On va parler de Lyon, entre autres. On va parler de Jean-Michel Aulas.
Exactement. Et en plus de ça, dans cette deuxième heure, Lens, leur saison est-elle suffisamment valorisée? 32-16 supporters lensois pour monter sur le ring des supporters et mettre en avant votre club. Ce sera à 19h30. À 19h45, le quiz avec à gagner cette semaine des gourdes intelligentes Mugo Bottle. Pour vous inscrire, vous envoyez top par SMS au 732-16. Ou bien vous appelez le 32-16 et vous appuyez sur la touche 4. Tout de suite, le mercato à Lyon. C'est Jean-Michel Aulas qui doit gérer une affaire de place.
Alors vous avez réglé ces problèmes de place.
C'est un garçon, je vous l'ai dit, c'est un amoureux du football, ce qui est déjà très bien.
En plus, il se fout de ma gueule.
Il lui a mis une telle pression en parlant de Ferrari. Quelquefois, c'est dur à arriver quand les bolides sont du côté de Lyon.
Non, mais d'accord, bon, mais qu'il ne raconte pas des conneries.
Il comprend rien au foot et là, effectivement, je crois qu'il a raison.
C'est gentil, il me donne pas de leçons.
Where is the casque?
Il me fait les consignes. Attends, dans les consignes, je chie dessus, ouais.
Très bien. Alors, sur Twitter, où Jean-Michel Aulas est plus actif que jamais, le président de Lyon se mouille. Je participe de manière active avec Vincent, Bruno et Laurent sur ce mercato. Alors, je vous précise que Malo Gusto continuera de jouer à l'OL au moins jusqu'au 30 juin, fin peut-être donc de la rumeur qu'il l'envoie à Chelsea. Par ailleurs, sur Ryan Cherki, dont on a parlé hier, il répète qu'il va rester à Lyon. Il l'a redit aujourd'hui, il l'avait précisé hier. Jérôme, tu nous as dit pourtant que les deux clubs discutaient. Ça, c'était les infos d'hier. Donc, ça discute sur Cherki malgré les prises de position publiques de Jean-Michel Aulas. Alors, joue-t-il sa crédibilité sur ces dossiers, comme il s'est engagé, comme il doit peut-être encore montrer qu'il décide et son pouvoir à Lyon. 32-16 pour débattre, Jérôme.
Ah, pour moi, il joue plus rien du tout, parce que pour moi, il est plus crédible du tout dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Il dit des fois tout et son contraire, donc ça, c'est la réalité. C'est malheureux. J'ai pas envie de mal parler de lui tout le temps, parce que il a tellement apporté à Lyon, tellement apporté pour le football français. Il est encore très proche des instances dans tous les cas. Il est au comité exécutif de la Fédé. Il échange beaucoup avec la Ligue aussi, forcément, sur l'évolution du foot français. Donc, il a encore une parole qui a un certain poids, mais de moins en moins. Parce que il est comme ça dans tous les dossiers qu'il a gérés avec son club. Pour moi, il y a eu plein de mensonges ces dernières années, et c'est pour ça que son club n'avance pas et recule même. Trop de mensonges, pas assez de clarté. Des fois, il te dit un truc et puis il revient avec. Il a du mal à accorder ses violons avec les gens qui représentent le club sportivement aujourd'hui. Moi, quand il parle comme ça aujourd'hui de Bruno, Vincent, Laurent, t'as l'impression que c'est une vraie famille qui font ensemble, qu'ils ont le même discours, ouais. Alors que pas du tout.
Ah bon?
Pas du tout. Mais je te le disais hier. J'ai eu des personnes qui ont pas du tout. Alors oui, je te dis pas que on m'a dit et qu'ils ont dit à certaines personnes, que ça soit l'entourage du joueur en parlant de Cherki hier ou avec le Paris Saint-Germain, qu'ils ont dit oui, ça va se faire, on ouvre la porte. Pas du tout. Mais quel club ouvrirait la porte comme ça sur un joueur qui pensait être un de leurs meilleurs joueurs avec une bonne valeur marchande à 18 mois de la fin de son contrat? Mais ils sont pas assez fermes. Si t'es ferme, si tu dis, comme il dit sur les réseaux sociaux, mais pour moi, il va pas m'avoir, comme il va pas avoir les supporters de Lyon, t'en fais pas. Ils ont beaucoup de respect, mais au bout d'un moment, ils vont lâcher. Ils ont lâché les supporters de Lyon. Ils savent très bien que de toute façon, le club, ils l'ont vendu aujourd'hui à une personne, on sait pas. On connaît pas. Tout ce qu'on sait, c'est que cette personne, John Textor, elle est pas plus riche que Franck McCourt. Et quand on voit les problèmes de Franck McCourt avec l'Olympique de Marseille pour investir plus que les 200 millions qu'il a mis aujourd'hui, c'est un problème. À Lyon, il a acheté le club un certain montant avec une dette.
Parce que quand tu achètes un club, tu es obligé d'acheter la dette avec. C'est la dette, c'est à peu près 200-250 millions, je crois, Jean-Louis.
Et Emmanuel, un club qui est en déclassement sportif année après année.
Mais exactement. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne connaît pas aujourd'hui la stratégie financière de l'actionnaire, de John Textor. On sait, et je le sais parce que j'ai fait mes recherches aussi, c'est que il est pas tout seul à avoir investi. Il a plusieurs personnes qui l'ont investi. Il a surtout un prêt.
Il a des comptes à rendre.
Il a surtout un prêt qui est important, qu'il a contracté aussi, qui est quasiment de la moitié de ce qu'il a mis sur la table. Donc forcément,
il doit vendre.
Tu dois. T'as un retour sur investissement. Est-ce que c'est à court terme, à moyen terme? Je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que là, il a plus la main sur ça, Jean-Michel Aulas. Et hey, malheureusement, c'est pour ça que tu peux pas nous dire aujourd'hui ici. Si, franchement, on va séparer les deux dossiers. Qui soit ferme sur Cherki. Bon, écoute, je le souhaite pour les supporters de Lyon qui disent vrai, parce que perdre un tel joueur en ce moment, alors qu'il joue beaucoup et qu'il s'investit avec Laurent Blanc, et c'est ce que je disais hier, ça serait un coup dur. Mais par contre, Malo Gusto, si demain t'as une offre à 35 millions ou à 30 millions, mais il faudrait être cinglé pour refuser. Malo Gusto, les gars. On parle de Malo Gusto, arrière droit. C'est pas le meilleur arrière droit du monde, quand même.
Ah oui, non, mais t'es nerveux, d'accord.
Ce qui est certain,
non, mais c'est contre lui que je m'énerve.
Ce qui est certain, Jérôme, c'est que on va relier d'ailleurs les deux transferts, celui de Malo Gusto, incontestablement, c'est pas un hasard comme ça. Si Malo Gusto a eu envie d'aller à Chelsea, c'est que Chelsea s'est positionné et que Chelsea a fait savoir correctement à l'Olympique Lyonnais qu'il était intéressé et que les discussions avancent. Je sais pas jusqu'où elles avanceront. Peut-être qu'elles aboutiront, peut-être qu'elles échoueront. Mais le problème est le même pour Cherki. Ça veut dire que ma petite expérience dans un club professionnel, tu ne peux pas dire qu'un joueur t'intéresse sans que le club propriétaire t'ait peut-être, comme il est grand spécialiste, t'ait un tout petit peu entrouvert la porte qu'il faut entrouvrir pour l'ouvrir toute grande. C'était voilà. C'était les propos même de Jean-Michel Aulas. Donc, qu'on vienne me dire qu'à ce jour, il est en train de faire machine arrière, peut-être qu'il est en train de faire monter le prix, peut-être,
oui, bien sûr.
Mais incontestablement, les propos et l'intérêt du Paris Saint-Germain n'a lieu d'être que parce qu'on a ouvert la porte du côté de l'Olympique Lyonnais. Maintenant, il a peut-être envie de la refermer. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des approches. Et peut-être même que certains disent, et là je n'en sais rien, que les clubs ont discuté du cas Cherki davantage que Cherki n'était au courant d'un éventuel.
Ah, mais ça c'est sûr, je l'ai dit hier, voilà. Que Cherki n'était même pas au courant de ces discussions-là.
Bah, c'est donc, annuable quand même, ça le concerne quand même, c'est le principal intéressé.
Bah, c'est pour ça que Manu, je me rappelle par rapport au tweet de Jean-Michel Aulas.
Je suis complètement d'accord avec vous, les gars. Et puis. Moi, je regarde la position et le déclassement sportif de l'Olympique Lyonnais, le manque à gagner, de pas faire la Coupe d'Europe, de pas faire la Champions League. Donc, ils sont obligés chaque année, pour équilibrer les comptes et pour pouvoir essayer d'avoir une certaine ambition sportive, de vendre leurs joueurs. Moi, je me rappelle ce qui avait été dit sur le dernier en date de la formation lyonnaise, c'était Gouiri. Ça l'a pas empêché, justement, d'être transféré dans la foulée derrière. Donc, moi, j'ai presque envie de dire à Jean-Michel Aulas, avec tout le respect que j'ai pour lui, il a fait énormément pour foot français. Ah, ça a été sûr, ça, un très, très grand entrepreneur. Il a construit un club, il a changé de dimension. Mais depuis qu'il a vendu, j'ai presque envie de lui dire.
Mais même là, avant.
Mais profite quoi de ta retraite quoi, je sais pas quoi, profite quoi.
Surtout qu'avec la dette du club, Manu, je te promets qu'il a très bien vendu. Hein.
En plus, là, il est salarié du club à l'heure actuelle, donc il touche une certaine somme, tant mieux pour lui. Mais quelque part, j'ai presque envie de lui dire, arrête de t'accrocher désespérément à quelque chose que t'as créé, parce que l'issue et la sortie risquent d'être dramatiques.
C'est dur de lâcher son bébé aussi.
Oui, je sais que c'est dur. Mais à un moment donné, la vie est quand même plus importante. Profite.
Les gars, il a quand même bien vendu.
C'est dur de le voir souffrir aussi.
C'est vrai aussi.
Imagine qu'un club français aujourd'hui, mis à part le Paris Saint-Germain, parce qu'ils sont hors dimension par rapport à l'intégration des stars. Parce qu'ils ont des stars. Mais aujourd'hui, à Lyon, on ne peut pas dire qu'il y a des stars.
C'est incohérent dans la communication.
Avoir vendu ce club 700 ou 800 millions, du moins estimer ce club à 800 millions aujourd'hui, j'ai un club, et puis, je mets la dette dedans. Et franchement, c'est un génie. Mais prends du recul.
Jérôme, je suis sûr que si tu fais un sondage à l'heure actuelle dans le vestiaire, tu demandes à tous les joueurs malhonnêtes, si demain vous avez la possibilité de partir, je suis persuadé qu'unanimement, tout le monde va dire oui.
Ah ouais, tu crois?
Mais j'en suis persuadé.
Et Manu, est-ce que Laurent Blanc regrette pas d'être venu, d'avoir mis le nez là-dedans?
Hein, Manu, la sinistrose en ce club depuis des années.
Manu.
Quand on met bout à bout les problèmes du actuel, moi j'ai entendu Doudou tout à l'heure, Doudou G, que pas le même que celui qui
était interviewé
dans le Moscato Show. Non, celui du côté de Gerland.
Qui parlait de régénérer le groupe, mais il ne parlait que de départ. Alors il y avait les très mauvais élèves, style Boateng et Aouar, et puis il y avait ce qui était peut-être transférable comme Malogusto dont on vient de parler. Il y avait Ren Adelaïde qui est arrivé à Séville. Je ne sais pas si entre-temps, pendant le voyage, ils ont eu des renseignements, mais je ne crois pas une seule seconde que la visite médicale ait décelé qu'il n'était pas capable de tenir 90 minutes. Je ne pense pas que ce soit la vraie raison. Il y a le cas d'Embélé, il y a le départ de Toko et Kambi, il y a... Aidez-moi, les gars. Il y en a d'autres, tu peux
toutes les citer, hein, les joueurs.
Mais tu te rends compte, le dernier cas, Adelaïde, là, qui a été recalé parce qu'il n'est pas prêt physiquement, mais qu'est-ce qu'il a fait pendant 8 semaines, pendant la trêve internationale, là?
Bon, après, lui,
il est un peu louche, cette excuse. Hein.
Non, mais
oui,
il s'est fait.
Il y a du grain à moudre là-dessus, quand même. Hein. Ouais. Mais ce qui est certain, c'est qu'on parle de régénérer, mais enfin, je sais pas quel oxygène ils amènent, hein, parce que y a pas grand chose, quoi. Je j'entends pas parler.
Ils ont amené Lovren quand même.
Ouais.
Lovren,
enfin,
quel âge,
de la défense centrale de la Croatie. S'il y en avait un à prendre, c'était pas lui. Hein.
Ils ont amené Boateng aussi.
Manu, toi qui es assez... Alors, je pense que tu vas pas dire le privé, mais je te posais la question, Laurent Blanc, franchement, quand tu vois tout ça, tu te dis, mais dans quel bourbier il s'est mis, quoi.
Bah, parce que tu changes d'entraîneur et la situation est toujours la même. Donc, la mentalité de ce club, au niveau des joueurs, pour moi, elle est dramatique. On est très très loin des générations Juninho et compagnie qui ont fait justement les années dorées de ce club-là et qui étaient très très bien dirigées aussi par Jean-Michel Aulas. Aujourd'hui, sincèrement, ça n'a ni queue ni tête. Je sais pas c'est quoi le projet sportif. Non,
mais comment il peut avoir l'énergie, Laurent Blanc, de essayer de relever ce challenge-là?
Parce que je pense qu'il avait la certitude qu'il peut changer les choses. Mais comment tu veux changer des joueurs qui sont ancrés dans cette mentalité depuis pas mal de temps? C'est même pas un électrochoc qu'il faut. Il faut changer des joueurs, il faut changer les gens. Et moi, je pense, c'est ce que je lui ai dit. Je vous fais un aveu.
Oui.
Je pense que l'ADN de l'Olympique Lyonnais a été galvaudé depuis le départ de Florent Maurice, de Genesio, de Grégory Coupé, le fait qu'ils formaient un formidable tandem également avec Bernard Lacombe, et qu'aujourd'hui ces deux personnes n'ont plus l'énergie, n'ont plus justement la présence qu'ils avaient eue pendant 20-30 ans qui était exceptionnelle. Je pense que c'est ça qui a été pour moi le coup de massue fatal à l'Olympique Lyonnais.
Mais c'est terrible pour Lyon parce que là il y a un vrai tournant. On en parle et là on a développé autre chose que les propos de juste de Jean-Michel Aulas. Mais pour parler de ce club-là, ce qui est terrible, c'est que Lyon avait une place forte dans le football français. C'est-à-dire sur les dernières années, même quand ils faisaient pas, ils ont pas gagné de titre depuis 10 ans. N'empêche que on disait il y a Paris Saint-Germain avec les Qataris, et il y a Lyon derrière, et il y a Monaco, et il y a Rennes qui s'est rapproché.
Dans la formation, c'était une référence aussi.
Il y a ces clubs. Mais aujourd'hui, il y a un vrai tournant. Parce que le foot français, il évolue. Le foot français, il change les règles. Un jour, on en parlera. Mais le foot français, en Ligue 1, on veut faire développer des choses. Il y a des choses qui se passent. On va passer à 18 clubs. Donc, c'est pour donner les 18 de Ligue 1, avoir un peu plus de moyens. Il y a des places en Coupe d'Europe où tu sens qu'il y a une stratégie depuis un an et demi.
Il y a des clubs qui travaillent très bien.
Où on respecte un peu plus les Coupes d'Europe. C'est pour ça qu'on a des meilleurs résultats en Europa League. Les jeudis noirs, c'est fini. Ça, tout ça, il y a un vrai tournant. Mais le problème, c'est que ce tournant-là, pour l'instant, il est sans l'Olympique Lyonnais. Et plus ça va, moins ça va. Et tu te dis que s'ils veulent dégager, comme en Angleterre, ils ont fait il y a quelques années, en disant il y a 5-6 clubs qui doivent représenter, qui doivent les valeurs, du moins, la force de ce championnat qui va pousser les autres. Et ben, je vais te dire, si en France, tu veux 5-6 clubs, Lyon n'en fait pas partie aujourd'hui.
On va continuer le débat.
Et c'est quand même triste.
Jean-Michel Aulas joue-t-il sa crédibilité? Alors c'était le débat de base sur le dossier Cherki, mais pour toi Jérôme, il est déjà plus crédible. Qu'en pensez-vous? Quentin ouais. nous rejoint au 32-16, supporter de l'OL, à tout de suite.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten. 19h16 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme. On continue notre débat, notre thème du jour. Oui, à 19h, c'est Jean-Michel Aulas. Oui, est-ce qu'il est encore crédible à vos yeux, supporter lyonnais? Vous allez être là avec nous dans quelques instants. On est avec Jean-Louis Tour, avec Manu Petit, avec Jean-Michel Larquet. Dans 10 minutes, c'est un ring des supporters, Jean-Louis.
Sur Lens. Ouais. La saison de Lens est-elle suffisamment valorisée? 32-16 supporters du RC Lens, venez parler de votre club, on vous donne la parole dans Roten sans flamme. Lyon, Aulas joue-t-il sa crédibilité sur les dossiers Cherki ou Gusteau, les joueurs sur lesquels Jean-Michel Aulas s'est engagé à ce qu'ils ne partent pas? Quentin nous rejoint, Jérôme, au 32-16.
Salut Quentin.
Bonsoir. Bonsoir l'équipe.
Salut. Ça va Quentin?
Très bien, merci, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Je vous écoute à chaque fois en podcast parce que je fais énormément de route, que ce soit Roten sans flamme ou bien l'after, je suis vraiment un fan.
Écoute, c'est gentil. C'est gentil. Ouais. Bah, continue de nous écouter. Bah, écoute, c'est un plaisir de t'avoir. Qu'est-ce que tu penses là, de notre débat là, sur Jean-Michel Aulas?
Alors, en fait, sur Aulas, vous êtes, et sur d'autres sujets hein, également concernant Lyon, vous êtes parti sur plein de points de vue. Bah, c'est vrai que Aulas, il joue clairement sa crédibilité. Moi, c'est ce que je disais avant au standardiste, c'est que pour moi, on peut faire un parallèle avec Cristiano Ronaldo, c'est que les deux, ils sont en fin de carrière et qu'ils n'arrivent pas à lâcher. Ils ne comprennent pas qu'ils ne sont plus dans le mood, malheureusement. Et puis oui, il joue sa crédibilité à sans cesse tuter sur tous les sujets. Il dit que là, il est en train de prendre le mercato avec lui, de tirer la couverture sur lui. Mais pourquoi? Pour empêcher Cherki de partir, pour empêcher de Malo Gusteau de partir, c'est ça en fait. Et on a besoin de lui pour ça maintenant. Quand on voit Longoria en fait, quand il se retrousse les manches, Longoria, c'est pour acheter des joueurs, c'est pour aller conquérir d'autres joueurs pour qu'ils viennent à Marseille. Donc nous, on a besoin de notre président pour empêcher que nos jeunes Lyonnais partent. C'est ça qui est devenu triste. Donc, on voit vraiment la faiblesse lyonnaise. Et puis, avant, j'entendais aussi, on parlait de l'identité lyonnaise, mais c'est pas que les joueurs. Hein. C'est aussi au club de préserver ça. Quand on voit Guimarães ou Paqueta à la moindre offre, ils partent. Mais comment voulez-vous que les joueurs ils s'inscrivent dans un projet sur le long terme? Si à la moindre offre, on parle tout de suite de l'intérêt financier. Non, c'est ça. Moi,
le problème.
Et là, concrètement, ouais. Ton pronostic, ils partent ou ils restent, les deux jeunes?
Non, moi je suis convaincu que Cherki il va rester parce que ça va vraiment être un tremblement de terre gigantesque à Lyon et que Aulas il est pas sur Twitter pour rien, il est vraiment là parce que il sait que il écoute hein, les Lyonnais sur les forums
pour la paix sociale.
Ouais, voilà exactement. Et pour Malo Gusteau, je pense qu'ils ont négocié un transfert définitif en cet été et que étant donné que nos deux compères ils arrivent pas à travailler correctement, on a même pas de solution de rechange, donc je pense qu'il va rester jusqu'à la fin de l'année Gusteau.
Ouais, mais en reparlant sur le débat là sur Jean-Michel Aulas, pour toi aujourd'hui supporter lyonnais, il est encore crédible à tes yeux?
Malheureusement non, il ternit son image comme je disais avant, c'est que ce qui est triste c'est que je commence à être déçu de mon Olympique Lyonnais. Alors ce sentiment de déception, je l'ai grâce à lui parce que j'ai des espérances que lui, il a réussi à bâtir. Sans Aulas, je serais pas déçu parce que j'aurais pas des espérances. Mmh. Mais malheureusement, il est en train de tout casser. C'est ça qui est triste, c'est que tout ce qu'il a construit, il est en train de le casser. Donc ouais, je pense qu'il perd de la crédibilité, on le voit, et en fait, il n'est plus l'homme de la situation. Aulas n'est plus du tout l'homme de la situation. Et ça, on le voit, donc en fait, les supporters sont tolérants envers lui par rapport au passé. Mmh. Mais c'est ça qui est triste, c'est que moi, je garde l'image d'un Aulas conquérant, d'un Aulas qui était là face au corps arbitral, dans les instances européennes, je veux dire...
Ça fait longtemps qu'on l'a perdu, celui-là hein.
Bien sûr, ouais. Mais c'est ça qui est en avant.
Toi, t'es inquiet sur le. Alors après, il y a beaucoup d'interrogations hein, sur John Textor. C'est ce que je disais. Donc on va pas l'enterrer avant qu'il mette son projet en place. Mais est-ce que t'es inquiet par rapport à cette personne qui est arrivée à la tête de Lyon aujourd'hui?
Inquiet. Pour l'instant, je sais pas du tout ce qu'il a pu faire en fait. Donc par rapport aux expériences qu'il a avec Botafogo, je me dis oui, s'il y a des salaires pas payés, etc. Ouais, ça peut faire peur par rapport à Lyon.
Est-ce que quand je te dis parce que je le sais et je l'ai su oui. Que il a moins de moyens que Franck McCourt par exemple. Est-ce que ça te permet de c'est pas une source d'inquiétude pour toi?
C'est une grande source d'inquiétude forcément parce que Longoria, pourquoi il a cette étiquette de magicien? Parce qu'avec peu de moyens, il arrive à faire des belles choses. C'est-à-dire nous, on aura moins de moyens que peu de moyens. Mais alors c'est quoi? Alors on va devoir faire
c'est
quoi?
Pas grand-chose.
Pas grand-chose.
Exactement. Raymond DeVos là qui nous fait un sketch. Là.
Non mais vraiment. Mais c'est ça qui est triste. Et puis nos recruteurs, faut en parler. De toute façon, c'est simple d'être recruteur pour Lyon. Vous avez juste à ouvrir la page Wikipédia, vous tapez saison 2009-2010 et puis vous regardez les noms. Est-ce qu'ils sont encore en activité? Oui, bah vous la téléphonez. Mmh. Moi aussi, hein, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Hein. Je connais les effectifs des années précédentes, donc je peux être recruteur. Quoi.
Ouais, ouais. Bah écoute, tout ça ne rassure pas. Et non. Vous, les supporters lyonnais, vous êtes aussi inquiets. Donc, écoute, Jean-Michel Aulas va peut-être nous répondre sur Twitter parce qu'il est, il est très influent sur Twitter et nous expliquer que tout ce qu'on dit, c'est pas bien. Mais
Quentin, pas trop triste du départ de Toko Ekambi? Ça s'est fait aujourd'hui,
non, du tout.
C'est confirmé.
Alors forcément, bon voilà, moi je suis contre les insultes ou autres. Je pense que c'est un bouc émissaire plus qu'autre chose, comme d'autres joueurs. Hein, vous savez, les années précédentes, on a montré du doigt les cornets, on a montré du doigt Martial.
C'est là-dessus que j'allais te relancer. C'est un truc quand même très lyonnais, le mec qui est un peu pris en grippe et qui part énervé à cause du public.
Mais voilà, mais hier il y avait un autre débat dans l'after où il parlait qu'il y a des joueurs qui ont reçu à surmonter ça. Moi je pense admettons à Gignac, ses premiers mois à Marseille, c'était vraiment difficile. Au final, il a conquis les cœurs marseillais. Juninho, les 6 premiers mois, quand il vient du Brésil, il est hors condition ou autre, il a réussi à conquérir les cœurs de Lyonnais. C'est aussi aux joueurs de faire des efforts.
Oui, parce qu'il y avait un environnement aussi autour de
Ram non plus.
Oui, ouais, bah après Gignac, c'était pas simple de s'imposer à Marseille. Hein. Je veux dire,
mais de toute façon, tous les joueurs sont plus ou moins passés par là. C'est rare d'avoir le tapis rouge là, et tout se passe bien, surtout quand t'as une grosse population, du moins beaucoup de fans qui sont derrière ton club. Mais n'empêche que voilà le cas Toko Ekambi, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est trop d'erreurs dans le recrutement sur les dernières années. Ils le payent. T'imagines tout ce qu'ils ont investi sur Toko Ekambi pour aujourd'hui l'envoyer en prêt payant à Rennes et se le récupérer dans 6 mois, quoi.
Mais Toko, malheureusement, c'est un neuf à la base. Pourquoi c'est un grand débat. Il joue sur le côté. À la base, c'est un neuf et il l'a toujours dit en interview. Ma position préférentielle, c'est l'axe. Et puis nous, on met un mec. Il est pas fin techniquement, Toko, beaucoup plus que moi, ça c'est sûr. Mais il est pas fin techniquement. Mmh. Mais après, il y a des joueurs qui, en fait, par leur jeu, par leur image, oui, ils gagnent aucun duel, etc. Mais malheureusement, ce qu'il a payé, c'est son geste envers les supporters. Mais il y a des joueurs comme Marcelo.
Ce qu'il y a aussi, c'est que à un moment donné, et jusque il y a pas très longtemps, les Lyonnais ont valorisé des joueurs. Sans trop dépenser, c'était le cas lorsqu'ils avaient fait le premier transfert. C'était, autant que je me souvienne, Edmilson de Lyon à Barcelone. Mm-hmm. Et puis après, ils ont rééquilibré. Mais dernièrement, même si ils ont vendu Paqueta et Guimaraes très cher, très bien, ils ont fait de bonnes affaires. Mais je pense qu'à la fin, aujourd'hui. La balance, elle est déficitaire. Quand je vois qu'aujourd'hui, par exemple, le petit, c'est Romain Fèvre, qui a été acheté 15 millions d'euros l'an passé. Tant mieux pour le stade brestois. Mais aujourd'hui, personne n'est prêt à mettre 100 000 euros
sur la table. Sûr. C'est sûr.
Donc, les exemples sont nombreux. Donc, aujourd'hui, je me demande si on avait dit que l'Olympique Lyonnais en parlait beaucoup d'argent. J'ai peur que dans les semaines et les mois à venir, on parle encore beaucoup, beaucoup d'argent et peu de
perdu sport. Surtout. Surtout Jean-Michel et puis même tous les supporters lyonnais. Dire quand tu te qualifies pas pour une Coupe d'Europe déjà, ne serait-ce que la plus petite des coupes d'Europe, c'est-à-dire la conférence Europa League ou l'Europa League.
C'est problématique. Tu joues sur l'affectif, c'est ce que disait l'auditeur. Ouais. Tu fais revenir des joueurs qui étaient lyonnais avec ces années, ou tu fais venir des joueurs qui sont fin de carrière.
Ouais, ouais. Mais sauf que ces joueurs-là, Manu, tu les fais revenir, mais il faut les payer. Et ils sont bien payés.
Mais où l'ambition lyonnaise?
C'est ça, non? Mais l'ambition, c'est le manque d'idées, c'est le manque de projets sportifs, c'est le manque. Parce que, moi, regarde, Jean-Michel, tu parlais de Romain Fèvre. T'as raison, Romain Fèvre, c'est pas un peintre quand même. Il a pas oublié son pied gauche, ce qu'il a fait à Brest. Après, il y a en effet un palier à passer, même deux, quand tu passes de Brest et que t'arrives à Lyon, on est d'accord. Il y en a qui arrivent pas à le passer. Mais normalement, ça, c'est le travail du directeur sportif ou de la cellule recrutement de sentir, savoir si ce joueur-là, il peut passer un cap. Mais c'est surtout comment tu le développes, dans quel projet, avec quel entraîneur. Et quand tu changes, quand tous les ans ou tous les deux ans, contrairement à avant, tu changes tout le temps d'entraîneur, que tu prends pas les meilleurs entraîneurs au monde pour développer des joueurs et les faire progresser, et que derrière, tu te fous de la tronche plutôt des autres clubs qui recrutent en disant ah ouais, ils sont jaloux, hein, ils sont jaloux de nous parce que ceci cela. Tu reprends ça en pleine gueule. Je suis désolé, c'est la réalité, mais c'est triste.
Juste les infos sur Romain Fèvre, puisque Jean-Michel Aulas a tweeté, Lorient est intéressé, Lorient voudrait un prêt, Lyon veut un transfert, et donc Aulas a dit pour l'instant, rien n'est fait parce qu'on n'a pas l'offre qui nous paraît suffisante pour ce joueur. Quentin, merci d'être venu au 32-16.
Merci Quentin.
Merci à vous, bientôt. Belle soirée.
Et bon courage.
Merci. À toi
bon
aussi, courage. Bonne soirée.
Ciao, ciao. Merci.
C'est-à-dire, en fait, il se contredit Jean-Michel Aulas, parce que là, il a une offre sur la table pour Cherki, il dit non, et puis quand il y a un prêt qui se propose pour notre joueur, il dit non, je veux le vendre. Donc il a besoin d'argent, donc quelque part il est pas en mesure de
il n'est pas en position de force.
Tu sais que lui a plus besoin d'argent, Manu. Hein. Lui, non, il a vendu ses parts.
Mais donc, je sais, il a pris une belle somme d'argent. Et tant mieux pour lui parce que c'est mérité par rapport à tout ce qu'il a fait.
Ah oui, non, mais ça, il y a pas de problème.
Mais j'ai presque envie de lâche l'affaire, profite de la vie, quoi.
On reste là sur Lyon. On revient dans une seconde avec un club qui marche bien. Parce qu'on parle souvent, c'est comme ça. C'est les émissions de débat des clubs qui marchent pas. Bah là, il y a un club qui marche bien, c'est Lens. Dans une Magnifique. Mais est-ce qu'on valorise suffisamment ce que font les Lensois, la performance exceptionnelle?
On veut y aller.
À tout de suite.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h30 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme. La dernière demi-heure de Roten sans flamme avec un bon ring des supporters dans un instant et surtout le quiz de Julien Cazard dans 15 minutes avec un beau cadeau à vous faire gagner. Oui. Restez bien avec nous, on est là jusqu'à 20h comme tous les soirs bien sûr, avec Manu Petit, avec Jean-Michel Larquet et avec Jean-Louis Tour ce soir.
T'as retenu Manu, ce qui était une gourde intelligente?
Une
gourde intelligente.
Une gourde intelligente.
Ouais. C'était
quoi?
Je t'ai déjà expliqué à Rennes ce que c'était.
C'est un truc connecté, non, c'est ça?
Mais non, pas du tout.
Manu, il écoute pas. Hein. Je t'ai expliqué mardi à Rennes avec Bruno Genesio ce que c'était.
C'est une gourde où tu peux mettre la température de l'eau, déjà.
Exactement, tu peux la régler.
Donc ça, c'est quand même bien.
Ouais,
et
bien.
Puis après, pour peut-être tes enfants. Quand ils oublient de boire, parce que c'est important de s'hydrater.
Ouais,
et ben voilà, t'as
un petit rappel. Voilà.
Bien le petit rappel.
Et donc tout ça pour dire qu'on a une gourde intelligente Mego Bottle à vous offrir dans le quiz.
Magnifique.
Qui vous êtes tiré au sort.
Et elles sont belles en plus.
Si vous choisissez la bonne équipe et que vous remportez le quiz, vous remportez donc une gourde. Pour vous inscrire, vous envoyez top par SMS au 732-16. Manu, tu peux le faire. T'envoies top par SMS.
Il y a gourde et gourde. On ne sait jamais de qui tu parles en fait. Tu vois.
Oh. Bien sûr. Là, on parle de l'objet.
Les gourdes intelligentes, des fois, ça ne va pas dans la même phrase.
C'est ce que disait Jean-Michel, effectivement. Il y a 3 minutes, mais il faut le temps que ça arrive. J'ai l'impression. Supporters lyonnais, vous avez sans doute entendu le débat tout à l'heure à 19h, sachez que demain on sera avec Juninho, donc on reparlera de Lyon.
Bien
on reparlera sûrement de Cherki, Jérôme. Ce sera demain 18h dans Roten sans flamme. Tout de suite, c'est Lens.
RMC, Roten sans flamme.
Le ring des supporters.
Oui, alors on a déjà parlé de la bonne saison lensoise, mais est-ce qu'on l'a suffisamment fait? Lens, 10e budget de Ligue 1 seulement, pointe à la 2e place du classement, une seule défaite cette saison, 44 points marqués sur 57 possibles. Vous vous rendez compte, le rythme hyper élevé, une équipe en progression constante année après année. Alors, est-ce qu'on valorise suffisamment le travail qui est fait à Lens? 32-16, on a Laurent qui monte sur le ring des supporters.
Salut Laurent.
Salut à tous.
Bienvenue
bien
Laurent.
De pouvoir vous réentendre
en direct.
Et en particulier Jean-Michel, qui grâce à lui, je suis venu dans son émission en 2008, dans l'Arc et Foot, j'étais à côté de Coach Courbis et de Jeannot Réfégué.
Magnifique, hein. C'était un dimanche matin
donc, ouais, tout à fait.
Magnifique.
Ouais. Mais c'est quelle année, tu dis?
2008, l'année de la descente, au lendemain du match Lens-Toulouse, qu'on avait perdu 1-0.
Ouais. Jean-Michel était tout seul à cette période-là?
Non, mais il t'a dit, il y avait Roland et Jeannot, en plus, dans l'émission.
Voilà.
Voilà. Et il t'a remonté le moral un peu quand même?
Bah écoute, les 40 étaient déjà quasi cuites à l'époque.
Eh oui, mais...
Il n'y avait plus rien à remonter.
Bah, ce qui n'est plus le cas maintenant.
De
voilà.
toute façon, je te rassure, à mon avis, il s'en foutait, il disait au revoir à personne, il se barrait, il en avait marre à la fin de l'émission.
T'es sévère.
Il t'a signé un autographe?
Non, mais il était chez lui, il n'était pas en dessous. N'hésitez pas à écouter ce que dit Laurent. Hein,
ah, mais je pensais qu'il était chez
lui. Deux questions, il avait répondu dans ce qu'il disait.
Pardon, autant pour moi, j'ai pas entendu.
La journée se termine, Jérôme, pour toi, je crois.
C'est possible.
Oh là.
Ouais.
Je confirme.
Bon, si on parlait de Lens.
Allons-y.
Bah oui.
Bah écoute, moi, sincèrement, c'est vrai que si on prend d'un point de vue général la médiatisation de Lens, alors c'est sûr que sur les chaînes télé, etc., on parle les horaires de match, c'est pas mal, c'est bien médiatisé, on voit bien Bollard, les supporters, on parle de tout. Mais c'est vrai que sur les radios, on n'en parle pas trop. Mais sincèrement, moi, ça me va. Ça me va très bien parce que je pense que on peut avancer, on peut travailler tranquillement. Les joueurs sont pas trop sollicités. Ils restent dans leur boulot, dans leur objectif. Je pense que là maintenant on peut plus se clasher justement quant aux objectifs. Et sincèrement, de sous-médiatisation, bon. Laissons les médias parler de Paris et de Marseille. Moi, ça me va.
C'est-à-dire, c'est quoi tes objectifs? Puisque vous pouvez plus vous cacher, c'est le podium là avant tout. Tu serais déçu si vous finissiez hors podium, j'imagine.
Ah ouais, non, mais c'est clair. Quand tu vois la saison qu'on fait, je crois que minimum le podium. Ah ouais, clair et net.
Mais Lens peut pas lutter pour le titre alors.
Ah. Ouais, ça va être chaud.
Mais pourquoi ça serait chaud? Je comprends pas.
Écoute, je sais pas.
Le match contre Paris Saint-Germain ne t'a pas fait changer d'idée? Tu considères
le bon recrutement plus de Lens là?
Le maçon qui est arrivé.
Ouais, le problème, c'est qu'on est toujours. Alors certes, on a une profondeur de banc, mais on n'a pas celle du PSG. Moi, j'ai toujours peur d'une blessure, d'un élément, essentiel qui se blesse. Et voilà quoi, ça peut arriver à Fofana sur 2-3 matchs, hein. Et puis ça va manquer. Regarde contre Strasbourg, on fait un 2-2 alors qu'on doit les taper 1000 fois. Je sais pas. Faudra attendre le match retour. Je pense que au match retour contre le PSG, on en saura peut-être plus, je pense. Puis sinon, il y a encore la coupe, hein. Pourquoi pas en faire un objectif aussi. Ouais, je sais pas si on a franchement, les cannes pour courir deux compétitions à la fois. Je pense qu'on va se focaliser.
Il y a un effectif assez conséquent, bah oui. Tout de même, non?
Ouais, l'effectif est bien. D'ailleurs, il y a une telle complémentarité, je trouve, aussi entre les joueurs, les remplaçants, etc. Je pense que Franck Hez, il a très bien compris, il a su concerner tout le monde. Il fait rentrer tout le monde quasiment dans les matchs, il fait tourner. Je trouve qu'il a une gestion de l'effectif qui est très, très intelligente. Mmh. Franchement, sur ce que je vois. Et puis après, derrière, il y a une espèce d'euphorie, là. Parfois, ça me fait peur un peu. C'est pour ça que je la marie un peu avec la médiatisation, parce que attention, l'euphorie, parfois, elle est pas toujours bonne conseillère.
Mmh. Ouais.
Alors Jérôme, vas-y.
Non, vas-y, qu'est-ce que tu voulais me poser?
Non, est-ce que justement, on n'a pas un peu du mal à parler parfois des choses qui se passent bien? Parce qu'il y en a toute une liste de choses qui sont bien faites à Lens.
Oui,
je veux dire, la politique sportive, elle est claire, il y a un style de jeu, il y a un entraîneur qui a la main sur le groupe, il y a des joueurs qui sont remplacés à chaque fois par un joueur qui fait l'affaire ou qui est aussi bon, voire meilleur. C'est un modèle de gestion, ce qui se passe à Lens.
Oui, alors après, on peut refaire ces débats et parler du sportif, comme tu l'as dit. Aujourd'hui, ça n'a pas changé, et tant mieux pour eux. Ça se voit en termes de contenu et surtout en termes de résultats, parce que c'est le plus important. Des fois, tu peux perdre un petit peu la main sur le match, un manque de maîtrise, et c'est déjà arrivé à Lens. Malgré tout, ils s'accrochent et ils ont un peu le brin de réussite qui me dit que cette année, ils iront au bout. Alors je sais pas s'ils finiront premier, deuxième, troisième, mais je pense qu'ils seront en Ligue des Champions parce qu'ils le méritent déjà, parce qu'ils ont tout. J'ai l'impression quand même que tout est fait cette année. Il y a des choses, des fois sur une saison comme ça, t'as la bonne étoile au-dessus de ta tête, et c'est le cas à mon avis des Lensois aujourd'hui. Mais moi j'insiste sur les valeurs du vestiaire.
De ce
ça,
club.
Ça, ouais, mais déjà du vestiaire, parce que c'est un peu similaire à l'instar de Rennes. Tu vois, c'est quand même une garantie sur les performances, sur les résultats. Alors je dis pas, encore une fois, il faut se méfier, parce que dans le foot, des fois, tu dis des choses et puis tu prends. Dans deux mois, on parlera peut-être. Les résultats vont s'inverser. Mais quand même, c'est une garantie d'avoir du contenu et certains résultats quant à cette ambiance-là. Et je vois pas comment cette ambiance, elle peut changer. Le petit grain de sable qu'il va y avoir dans ce groupe-là, ils vont pouvoir conserver ça, cette belle ambiance, au moins jusqu'au mois de mai.
C'est exactement ce qui fait la force d'une équipe, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un grain de sable, comme tu le dis, quand il y a une force collective, quand il y a de la solidarité entre les joueurs, de l'altruisme, toutes ces qualités-là, tu peux avoir des mauvais moments, tu peux perdre des matchs, tu peux. Mais le problème, c'est que quand tu as cette force avec toi, tu as la force de réagir.
Ouais.
Et je pense que ça, aujourd'hui, on ne sait pas pour quelle raison, mais tant mieux d'ailleurs, on ne sait pas pour quelle raison, mais à Lens, ça existe. Et puis, il y a des équipes où tu sens que dès qu'il y a un pet de travers, comme on dit, un petit grain de sable, eh bien, ça s'écroule. Et je pense que, je ne sais pas jusqu'où ils iront, je pense que Lens, avec cette équipe-là, et jusqu'à la fin de la saison, est au moins à l'abri d'une... Comment dire, d'une dégringolade, quoi, tu vois.
Ouais, ouais.
Je pense qu'ils peuvent avoir des moments compliqués parce qu'ils ont pas, non plus une grosse équipe, c'est pas.
Oui, et puis, Jean-Michel, il y a quelque chose, contrairement à beaucoup de clubs français et de propriétaires et de présidents, rappelle-toi l'effort qu'ils font sur Seko Fofana en début de saison pour le garder. Parce qu'ils croient au projet, parce qu'ils se disent, en effet, et peut-être qu'au bout d'un moment, ils se sont posé la question de le vendre, parce que l'offre était impressionnante, elle était de 35 millions, je crois, pour le budget de Lens, c'est beaucoup. Mais eux, ils ont une autre stratégie, et j'espère qu'il y a d'autres clubs français, et Rennes est un peu comme ça aujourd'hui.
Et ce qui est beau aussi, c'est que le joueur ait envie de rester.
Oui, mais.
Alors qu'il serait peut-être payé plus cher ailleurs.
Mais parce qu'ils ont fait un effort sur son contrat, ça c'est sûr. Et à l'aspect financier, il faut le récompenser. Mais surtout, le club, c'est dit.
Son pouvoir d'attractivité aujourd'hui. Non seulement tu dis que les joueurs ont envie de rester, mais contrairement, on parlait de Lyon juste avant. S'il y a des joueurs aujourd'hui, l'attractivité de Lens, elle est incroyable. Dans le projet sportif, dans l'épanouissement des joueurs, sur le plan personnel, mais également collectif. Mais quelque part, j'ai presque tendance, parce que pour répondre à ta question, il faut que ça soit validé ces deux ou trois années, justement, depuis leur remontée en Ligue 1.
Il faut que ça soit validé par un titre, une Coupe d'Europe.
Ouais, ouais. Pour venir entériner tout ça.
Manu, ah bah c'est sûr.
Je te coupe deux secondes, mais à un moment ou un autre, quand tu as le 10e budget de Ligue 1.
Oui.
Tu es aussi rattrapé par tes finances, Manu.
Non, je sais,
mais attention, le 10e budget,
Jean-Michel,
tu ne seras pas tout le temps
Jean-Michel,
sur le podium. Mais
c'est pour ça que moi, je ne suis pas d'accord avec
Jean-Michel,
vous.
Jean-Michel, le foot français, quand je te parlais, le foot français, il évolue, c'est la réalité. Le foot français aujourd'hui, et c'est bien d'avoir changé ça. Et ça, c'est on parle souvent en mal du foot français sur l'évolution. Il y a une évolution quand même. C'est qu'aujourd'hui, les clubs qui jouent la Coupe d'Europe, ils sont beaucoup plus récompensés aujourd'hui en termes financiers qu'avant. D'accord,
oui.
Le partage est différent et que il y a une carotte et automatiquement le président de Lens quand il fait l'effort sur Seko Fofana, la réflexion elle est je prends 35 millions tout de suite sur la vente mais je les prends pas, je vais faire l'effort de le prolonger, je vais l'augmenter et tout ça et je vais garder un de mes meilleurs joueurs qui va me permettre peut-être en effet comme dit Manu d'être récompensé d'une Coupe d'Europe. Mais si Lens se qualifie ne serait-ce qu'en Europa League.
Ouais.
Et ben ils sont gagnants.
Ah oui, d'accord. Oui, oui,
ils sont gagnants sûr, parce sûr. Que. Mais déjà.
Je disais juste là où je n'étais pas d'accord avec vous, c'est le besoin d'avoir la validation.
Et le prix marchand de Fofana n'aura pas baissé.
Et le prix, oui, au contraire, sûr. Il aura même augmenté, Jean-Michel.
Moi, je suis pas d'accord quand vous dites qu'il faut un titre absolument pour valider ce qui se fait.
Un titre,
le travail que tu pourrais, à un moment donné.
La Coupe d'Europe, oui, mais le titre,
c'est important pour l'entraîneur et les joueurs.
Oui, mais Manu, imagine, en finale de Coupe de France, ils perdent sur un pénalty. On va oublier tout le beau travail qui est fait depuis 3 ans, juste parce qu'ils n'ont pas eu de titre.
Rappelle-toi
l'année dernière. Moi, je pense que c'est déjà validé,
non,
en fait. Le boulot est déjà énorme, en fait.
Oui, mais d'accord, mets-toi à la place de l'entraîneur, mets-toi à la place des joueurs. Je parle même pas des supporters. Quand tu progresses comme ça depuis 2 ou 3 ans, il faut que ça soit validé par quelque
bien
chose
sûr.
Qui marque. L'année dernière, ils ont raté
alors,
la Coupe d'Europe.
Alors c'est le podium, si tu veux. Alors,
ils ont raté le podium.
C'est ça. Oui,
points,
ok. Alors d'accord. Ouais.
Non, même l'Europa League, Jean-Louis.
Oui, oui, non, mais ça, bien sûr, bien sûr. Ça, je suis d'accord.
Là, le problème.
Oui, qui finit cette année en Coupe d'Europe.
Bien sûr, t'es d'accord.
Le problème de la France, et de toute façon, c'est que on a que 2 places assurées en Ligue des Champions. Donc, on parle plus d'Europa League pour ces clubs-là. Maintenant, s'il y a une bonne surprise pour eux, tant mieux.
Ça fait 5 ans qu'ils jouent la ouais. Coupe d'Europe. Regarde la progression de ce club-là.
Oui, mais surtout, attention, là où ça a changé, et moi, c'est là que j'apprécie, c'est que depuis 2 ans, ces clubs-là respectent d'autant plus l'Europa League. Mmh. Les résultats ou la Conference League, les résultats sont bien meilleurs.
Et le club progresse.
Et ben, il faut continuer parce que, en faisant ça, en ayant des meilleurs résultats en Coupe d'Europe, en valorisant les équipes qui sont qualifiées en Coupe d'Europe, et en passant les tours, peut-être qu'on va doubler des pays. Peut-être qu'au bout d'un moment, on aura la bonne surprise dans 1 an ou dans 2 ans d'avoir 4 équipes en Ligue des Champions.
On en reste là pour Lens.
Ben oui.
Messieurs. Merci Laurent d'être venu au 32-16 sur ce ring des supporters. À très vite. Lens qui sera à 3 ce week-end.
D'ailleurs, Jean-Louis, pour être honnête, on voulait aller à Lens.
Ben oui.
C'est vrai, mais le club n'a pas l'emploi du temps pour nous recevoir. C'est dommage parce que voilà, j'aime bien mettre comme Rennes. De toute façon, ça fait partie du paysage du football français.
C'est l'humilité des Lensois quelque part. Ils ont peut-être peur aussi d'annoncer leurs ambitions.
Non.
Puis l'année dernière, t'es allé les voir, tu les as boostés.
Si les supporters Lensois nous écoutent, et je sais qu'ils sont nombreux, et qu'on parle pas assez de Lens ou quoi que ce soit, sachez qu'on a fait les démarches pour aller faire 2 heures d'émission spéciale là-bas. Mais malheureusement, le planning est très chargé.
Ça évoluera peut-être.
Et on peut comprendre.
Ça évoluera peut-être.
En tout cas,
dommage pour les frites. Pour Jean-Louis.
On va les pousser.
Ouais. Ouais, bonne nouvelle pour mon quoi. on va pousser jusqu'à la fin de saison. Effectivement,
non, on va pousser pour qu'ils soient, comme disait Manu, récompensés d'une Coupe d'Europe en fin d'année.
Et comme ça, on ira à ce moment-là, à la fin de la saison. On va aussi faire ça au mois de juin.
Hein, peut-être qu'ils pensent qu'on est un peu les chats noirs, donc ils attendent.
Ah oui, ils ont peut-être vu tes 2-3 derniers pronos. Dans une seconde.
De pronos?
Non, je sais pas, je suis
une idée de allez, vas-y, le quiz.
Il parie plus en plus, donc en plus, n'importe en quoi. Plus, plus d'excès de vitesse, il parie plus. Bon, c'est incroyable, plus le même
0. C'est incroyable.
Ouais, c'est incroyable. En revanche, t'as des quiz. Et les quiz, ah, parfois, t'en perds un.
Je croyais que t'allais dire, en revanche, t'as progressé, qu'est-ce que t'es bon à l'antenne. Je crois que t'allais dire ça.
Retourne-toi, il y aurait pas Rotten sans flamme écrit derrière si t'étais pas bon ou en pleine progression. L'œil célèbre et tout.
Oh my god!
Oh quoi, Manu? Je trouve pas qu'il est en progression constante. Non,
mais le titre Hôtel sans flamme lui colle parfaitement. C'est...
Ah là, je te jure, là je me suis bien enflammé parce que qu'est-ce que je transpire, Manu?
Allez, dans une seconde, le quiz avec Julien Cazard, à tout de suite.
RMC, 18h20, Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
19h47 sur RMC, toujours dans Rotten sans flamme. Bien sûr, on continue nos thèmes, nos débats, bien sûr, mais on continue surtout le quiz de Julien Cazard à 10 minutes de la fin de l'émission, comme tous les soirs, et on sera de retour demain. Restez bien avec nous demain, encore plein de bonnes surprises, surtout Juninho. Juninho qui répondra à ce que j'ai dit sur Cherki. Oui, il a un autre avis. Eh ben, il nous en fera partager demain. Ne soyez là à l'heure à partir de 18h. On est avec Manu Petit, avec Jean-Michel Larquier qui vont former une belle équipe et Jean-Louis Tour, mon joker de luxe. On y va, Jean-Louis.
Rotten contre le reste du monde, saison 2.
Tu peux encore faire un petit chelem camembert à la suite d'un grand chelem, ce qui est déjà une belle performance.
C'est pas mal.
C'est pas mal, c'est pas arrivé souvent. Donc bon, après c'est pas non plus c'est qui le cube d'en face, c'est gentil.
Ah quand même.
Hein. Oui. C'est quand même pas
c'est pas des cadors là.
Jean-Michel l'a fait tomber hier quand même.
C'est vrai. Ah c'est vrai que Jean-Michel est quand même bon hier, c'est vrai, c'est vrai.
Alors, il y a une gourde
avec nous.
Déjà, il y a une gourde intelligente à gagner. Je vous le rappelle, la fameuse gourde intelligente.
C'est que tu sais, c'est quand t'as soif.
Mogo Bottle, pardon. Soit pour Patrick, soit pour Jaïr. Bonsoir à
tous. Salut les gars.
Bonjour. Bonsoir plutôt.
Salut. Patrick, Rotten ou reste du monde?
J'ai gagné une fois avec Rotten, j'ai gagné une fois avec Coach Courbis.
Ah bon? Bravo,
Ah bah merde. T'as gagné combien mon poulet?
Sur malentendu. T'es sûr que t'as eu ton lot?
Bah j'ai eu la montre.
Ah très bien.
C'était pas un bracelet électronique, t'es sûr?
J'attends toujours la mini enceinte intelligente là, Google là, mais bon.
On est dessus, t'inquiète pas.
On en a donné à Manu.
Bon là, tu peux jouer avec qui alors? C'était la question de base.
Allez, avec Jérôme.
Allez, vas-y, on va gagner.
Cache ta joie.
J'avais dit la même chose la dernière fois.
Mais Jean-Louis,
tu la caches toujours aussi bien. Tu vois là, t'as pas changé. Jaïr, c'est avec le reste du monde.
Allez, Jaïr.
Ouais, ok.
Attention, petite question flash pour commencer. Quel joueur vient d'être mis sur le marché des transferts par Chelsea? Un joueur qui pourtant est bon, hein, quand même, plutôt qu'il aura même. C'est là où ils sont quand même pas très très sympas parce qu'il aura donné un titre de champion d'Europe.
N'Golo Kanté.
Non,
c'est pas Sylvain.
Kayavers, bonne réponse de Manu Petit.
Ouais.
C'est pas cher, 60 bars ils veulent. Franchement, c'est cadeau pour un club de Ligue 1. 60 millions.
Ouais, oui.
C'est bon.
Oui, non. Surtout quand t'achètes Malo Gusto 40.
Non, mais à mon avis, il y a un coup à faire en échangeant avec Bamba Dieng. Enfin, je dis ça, faut juste lui trouver un genou. Quoi qu'est kiff-kiff, vous êtes prêts? Quoi qu'est kiff-kiff, tout le monde joue. Mm-hmm. Bernd Schuster, William Gallas, Figo, Carlos Tevez, Morata, Bafétimbi Gomis. Schuster, Gallas, Figo, Tevez, Morata, Gomis.
C'est pas simple.
C'est pas simple. Alors, c'est pas un truc qui est très bien vu, hein.
Ils ont refusé de jouer en sélection.
Ils ont fait une grève, non,
ils ont fait un truc qui est mal vu, qui est mal pris.
Là, ils ont été dans les deux clubs ennemis.
Bonne réponse. Ils ont même quitté un club pour le club ennemi. Bonne Jérôme, réponse. Ouais. C'est bravo, Jérôme. Gomis, c'est évidemment Saint-Etienne pour Lyon.
Bien sûr.
Et
ce que Jean-Michel aurait pu faire.
Ouais, c'est vrai. Mais ils n'ont pas voulu. Kikawej ici, tout le monde joue. Kikawej ici, Ajax. Algarafa, Real Madrid, Galatasaray, Inter Milano.
Schneider.
Bonne réponse de Jérôme. Il est chaud. Wesley. T'avais le visage. C'est vrai. Il fallait juste le nom.
Sinon, tu me le décris. Il ressemble plus au.
Demain pour Jérôme.
Il a un peu abusé.
Je l'ai corrigé. Il roule.
Enfin, Jérôme fait un vrai quiz. Bravo.
Je rappelle qu'il est passé par Nice.
Ouais. Comme bah, Mathieu Bonnemer, ouais. Comme Cardinal, comme Ben Arfa. Oh. Je sais pas qui est le, qui ça, c'est qui fait la bouffe là-bas.
Comparé Mathieu ah, avec oui, Schneider cool. De l'époque.
Ah ouais.
C'était
ah,
bah, plus fit. Petite tendance à manger des. Hein. Mais un A, place du I pour moi. On va enchaîner avec un Kikseti.
Je prends un joker.
Oui, il prend un joker.
Il a un joker.
Ouais, mais c'est Jean-Louis Tour.
Ah oui. Quel joueur de Ligue 1, au vu du mercato, n'a plus son lustre d'antan du 18e siècle, à l'époque du royaume du duché de Saxe? Quel joueur de Ligue 1, au vu du mercato, hein, et de oui, ce qui s'est passé, oui. N'a plus le lustre qu'il avait au 18e siècle, dans à l'époque du duché de Saxe? Un joueur qui a pas fait un gros mercato, qui a été recalé au mercato, bien qui n'a plus son lustre d'antan.
Reine Adélaïde,
la reine Adélaïde du duché de Saxe, évidemment. C'était là, elle existait.
Bravo.
La reine Adélaïde du duché de Saxe, bien qui sûr, était beaucoup plus reconnaissante à l'époque. Bien c'est ça que t'as reconnu,
Non, là, il l'a vu, là, il n'a pas triché. Là, je confirme, il n'a pas triché.
Attention, Kikseti, deuxième Kikseti, deuxième jeu de mots de merde. Il reprend un joker.
Ouah, il a un joker! Non, c'est un contre-joker. Il joue pour les autres, pour le reste du monde.
Ça veut dire quoi, Manu, ça?
Ça veut dire que... Manu?
Gourde.
Intelligente. Quel joueur ne fait visiblement pas la pluie et le beau temps dans son club en ce moment?
Gusto.
Il fait plus la pluie et le beau temps dans son club, visiblement.
Météo.
Roberto Météo, bien sûr. Dis Météo, non, c'est pas ça.
Averse,
Kai Averse, évidemment, mis sur liste des transferts. Il est là, Jean-Louis.
Il est là, Jean-Louis. 3-2 pour la Dumont.
Allez, on va faire. Question, c'est abusé.
J'ai compris.
Oh, mais mon vieil, c'est abusé, gros. T'es sûr que c'est abusé, Jérôme? Il a été transféré de Monaco après en 2004. Vous vous souvenez de ça? Beau transfert. Monaco s'est fait un peu le sou. Pas trop non plus.
Oui.
C'est un petit 12 millions, je crois.
Oui, pas mal. À l'époque, c'est le deuxième.
C'est pas mal.
Ah ouais, après
Nico. Qui était cette année-là le plus gros transfert? Non. En 2004? Non.
En France?
Le plus gros transfert d'un Français vers l'étranger.
Ah, vers l'étranger.
Julie?
Non.
Non.
Non, non. Un Français vers l'étranger?
Faïchemel, Singan. Singan.
Ah, Drogba.
Drogba, bonne réponse de Jérôme.
Trois partout, c'est un peu trois
partout.
Ouais, il jouait en France, quoi.
Attention.
Non, mais.
Qu'est-ce qui se passe?
Il dit un joueur français.
Ouais, du moins.
Non, j'ai dit qu'il est parti d'un club français.
Ouais,
j'ai
dit.
Un joueur français, t'as
dit.
J'ai jamais dit joueur français, monsieur.
Écoute, t'as dit joueur français.
Alors, déjà, excusez-moi, il jouait pour la
Côte d'Ivoire.
Mais il est français. Il est français, monsieur Didier Drogba, aussi.
C'est pas français, je m'excuse.
Ah bon? C'est pas français.
Non. Parce que toi, tu vas nous donner le son de français.
Ah, bien sûr.
Mon premier, attention. Ferme-la, c'est français ou pas? Mon premier.
Ça, j'ai toujours rêvé de dire ça.
T'as des couilles quand t'es pas là, toi.
Et je les garde. Mon premier est un petit oiseau migrateur. Mon deuxième tombe de manière drue et subite. Et mon tout est un international allemand.
Averse.
Oui. Kai Averse, bonne réponse. Mais petit.
T'as pas bossé aujourd'hui ou quoi?
Mais t'as qu'à répondre, il est marrant, lui. Il est marrant, quand il répond, ça marche, et puis quand il répond pas.
Sinon, Captain, il est où?
Ah ouais, il est.
Mais non, mais j'ai travaillé hier, je te laisse. Tu es magnifique.
Attention, hein. C'est le moment 4-3. De la question Almeta.
Ah, bah, ah bah,
c'est
oui,
c'est
ça me
parle.
Question Almeta. Soit tu réponds bien, soit.
Je vais chier sur ton scooter.
Et ça fait un point en moins.
Jérôme, tu es seul à répondre.
Vas-y.
Je répète ça pour Manu.
Oui,
tu parles bien français, mais qui a du mal à le comprendre parfois. Qui est le meilleur passeur de Ligue 1 derrière Messi et Neymar?
Mbappé.
Mais lui qui répond seul, il vient de te dire. Visiblement, Manu, au bout de 2 ans, c'est toujours pas.
Il a dit Mbappé.
Non, c'est pas Mbappé.
Manu qui a dit Mbappé.
Jérôme, une fois.
Tu peux pas me donner un petit indice?
Non, mais non.
Un petit indice?
Ah non, pas sur le métal.
Non.
Un petit indice.
Non.
Moi, je l'aime bien, ce joueur. Voilà, c'est pas un gros indice.
Arrête-toi.
Allez, une fois. Allez, deux fois. J'ai envie d'une réponse.
Ça va, il a...
Non, mais c'est pas Golovin. J'en sais
qui
rien.
Tu dis
Golovin, non.
Golovin, c'est Jonathan Klaus, monsieur. Jonathan Klaus.
On dit
Moi, je dis Jonathan Klaus même. Je dis Jonathan Klaus.
Donc, t'as fait un point au moins. Ça fait 4-2, dernière question.
Je te rappelle qu'il vient de Lens, hein, c'est Jonathan.
Jonathan. Dernière question, Julien.
Dernière question. Alors, on va faire une question, c'est abusé de ouf.
Mais moi, c'est abusé de fou, gros.
Mais attends, Jean-Michel, t'as trouvé la dernière, c'est abusé de fou.
De toute façon, ça fera
4-3. Et les deux dernières. Question, c'est abusé de ouf. Quelle est la distance kilométrique exacte?
Tu crois que je bosse au guide Michelin ou quoi, putain?
Alors, celle-là, tu la connais.
Entre
Paris et Caen. Alors, Jean-Michel, toi en premier.
Non, mais
vite.
Moi, je l'ai.
220. À toi, Manu.
C'est quoi
240. Ok, 240.
240. Et toi,
Paris-Caen?
Ouais.
Non, c'est un peu plus. C'est 250.
Allez, Julien. La bonne réponse est 239. Bonne réponse de Manu Petit.
Victoire de Jair à qui on envoie la gourde intelligente.
Roten sans flamme sur RMC avec Mego. Vos boissons à la bonne température grâce à la technologie Mego. Rendez-vous dès maintenant sur mugo.fr.
Génération After tout de suite. Nico Jamin, salut Nico.
Salut Jean-Louis, salut Jérôme, salut à tous. À partir de 20h, effectivement, jusqu'à 22h, comme tous les soirs. On va parler ce soir du choc du Ligue 1 ce week-end. Marseille-Monaco, Igor Tudor un peu tendu en conférence de presse, on l'écoutera. Le duel entre le Real et l'Atlético de Madrid, on parlera de Camavinga, qui est en train de s'installer comme titulaire au Real. Mettre Kroos et Modric sur le banc. C'est le moment,
exactement.
La relève. On parlera du Paris Saint-Germain qui ne fait pas assez confiance à ses jeunes. Encore une fois, le PSG d'être plus clair avec sa jeunesse. Ah bon, et aussi, Montpellier tient rapidement, Montpellier danger. Ça glisse dangereusement vers le bas du classement avec les tensions au club et les supporters qu'on attend au 32-16. Voilà le programme et le Mercato Show, la suite du feuilleton Mofi, Bamba Dieng, bien sûr, au programme des Générations After. Nico, bonne émission, amusez-vous bien. En tout cas, moi, je vous remercie encore une fois de votre fidélité. On se donne rendez-vous demain pour clôturer cette magnifique semaine. Demain, n'oubliez pas, à partir des 18h, Juninho, il sera là. Et oui, il est un petit peu en contradiction avec ce que j'ai dit sur Cherki. On compte sur vous à partir de 18h. Ça va être chaud, ça va être bon. Et on va lancer le week-end de Ligue 1. Bisous à tous, bonne soirée.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.
RMC Football. Samedi 4 mai à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine, le 4 mai à Montpellier, avec RMC.